Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Arcana les mystères du monde. Alors aujourd'hui, nous allons voyager en Égypte à la découverte de la mythologie, de la religion et des cultes qui étaient pratiqués dans l'Égypte pharaonique. Et je peux vous assurer que le sujet n'est pas des plus simples. Car si l'Égypte passionne largement les foules, il ne reste pas moins qu'il existe de nombreuses idées reçues et de nombreux fantasmes sur cette civilisation. Alors, cela vient en grande partie de ce que l'on va nommer l'égyptomanie, une mode qui est née entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui s'est poursuivie un petit peu au XIXe siècle et qui prêtait à l'Égypte l'origine de toutes les traditions ésotériques de par le monde et développe une vision fantasmée de la terre des pharaons. Précisons d'ailleurs qu'à cette époque, l'écriture égyptienne, le hiéroglyphique, n'était pas encore décodée et ce fut source de nombreuses erreurs. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'un Français, Jean-François Champollion, décrypte les hiéroglyphes, ouvrant ainsi la porte à une meilleure compréhension de l'histoire égyptienne. Ainsi, dans cette vidéo, je vous propose de quitter le mythe pour découvrir la réalité du culte, des croyances et de la religion des anciens Égyptiens. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, prenons quelques minutes pour contextualiser la problématique. L'histoire de l'Égypte ancienne s'étend sur une longue période temporelle de plus de 3000 ans. Et de fait, au gré des siècles, les croyances, l'architecture et les rites ont évolué. Prenons quelques exemples. L'architecture pyramidale existait durant l'Ancien Empire, soit entre 2700 et 2200 avant notre ère. Le célèbre Livre des Morts apparaît seulement au cours du Nouvel Empire, soit seulement à partir de 1550 avant notre ère. De la même façon, le culte de Isis et Osiris, omniprésent lors du Nouvel Empire et de la Basse Époque, n'était pas exactement le même lors des périodes précédentes. Il a évolué au gré du temps et s'est complexifié. Autre difficulté, dans les temps anciens, les Égyptiens ne possédaient pas une religion unifiée, mais en réalité plusieurs systèmes des cosmogonies qui coexistaient et qui ont progressivement fusionné pour donner la version que l'on connaît de nos jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision couramment admise de la mythologie égyptienne est en réalité basée sur la cosmogonie d'Héliopolis et sur les rites et croyances du Nouvel Empire, voire même sur l'interprétation qu'en feront les Grecs lorsque ces derniers régneront sur l'Égypte à partir du IVe siècle avant notre ère. Vous voyez donc que l'affaire n'est pas simple. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la religion, les mythes et les cultes, ainsi que sur leur évolution. Alors bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire complexe de l'Égypte antique, je vous renvoie bien évidemment à ma longue vidéoconférence sur la question qui se nomme « L'Égypte antique, 3000 ans d'histoire, du mythe à la réalité ». Enfin, dernière précision, l'émission que je vous propose aujourd'hui est une conférence que j'ai donnée il y a 6 ans et que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui en libre accès sur YouTube. Alors, si vous êtes passionné par l'Égypte, installez-vous bien et je vous souhaite une bonne émission. Alors, première partie, nous allons voir les différentes cosmogonies égyptiennes. Car une grosse différence par rapport aux mythologies, par exemple, grecques, c'est qu'en Égypte, il n'existe pas du tout de mythologie unifiée. C'est-à-dire qu'en Grèce, si Zeus représente le dieu principal dans globalement tous les territoires de la Grèce et que, sous des vocables différentes, certes Cybèle ou encore Déméter peuvent représenter le même archétype divin, eh bien en Égypte ce n'est absolument pas le cas. Il existe de profondes différences suivant les différentes régions géographiques de l'Égypte, avec une explication sur l'origine du monde qui est différente, même si nous allons pouvoir retrouver certains éléments invariants qui sont communs à toutes les mythologies. Il faut comprendre également que plus on se rapproche de notre époque, plus les différences sont fines, voire totalement inexistantes. Donc comprenez bien que si l'on remonte à l'Ancien Empire, les cosmogonies n'ont rien à voir entre elles. Si on s'approche du Moyen Empire, on va voir les premiers syncrétismes, et si on arrive à la période du Nouvel Empire, on peut parler quasiment d'une mythologie égyptienne que l'on pourrait dire unifiée. Même si c'est un petit peu péremptoire de dire ça comme ça, on peut considérer qu'il y a une cosmogonie, on va dire, majoritaire et qui fait consensus tout en ayant repris des éléments qui appartenaient à d'autres cosmogonies, du moins dans cette période du Nouvel Empire. Dans une deuxième partie, Nous allons parler des récits divins. On va tenter de remettre un petit peu en avant les principaux mythes qui appartiennent à la mythologie égyptienne. Et encore une fois, de les replacer dans leur contexte cosmogonique pour voir, dans un même récit divin qui a été écrit au Nouvel Empire, de voir les éléments qui appartiennent à une cosmogonie ou à une autre. Cette deuxième partie sera la plus rapide de l'émission. Et la troisième sera la plus complexe, puisqu'on va parler des croyances, des religions, mais également de tout ce qui est rituel et éventuellement magique. Donc les rites funéraires, le mythe des composantes de l'être, donc âme, esprit, corps, etc. Même si on va employer d'autres mots dans le cadre de l'Égypte, on va parler également du fonctionnement de la religion égyptienne, du rapport avec la magie et des connotations rituelles. Puis ensuite, on fera une petite conclusion. Alors, commençons directement avec la première partie, les cosmogonies. On va introduire un petit peu le sujet, ensuite on va parler de la plus connue des cosmogonies, à savoir l'Énéade d'Héliopolis ou Héliopolitaine. Ensuite on va parler de l'Ogdoade d'Hermopolis, qui est sûrement la deuxième plus connue et la plus importante. Et bien ensuite on parlera du mythe de la création à Memphis, la cosmogonie memphite. On parlera également de la cosmogonie d'Esna, qui est très particulière, peut-on dire. Et nous finirons avec un cas particulier, unique, qui n'a pas de cosmogonie, mais qui est central dans les croyances égyptiennes, c'est le culte du dieu de Thèbes, à savoir le fameux dieu Amon, qui deviendra Amon-Ré, et dont le principal temple se trouve à Karnak, en l'occurrence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une cosmogonie? Eh bien, c'est une tentative littéraire d'explication de la naissance de l'univers, de l'existence de l'homme, du fonctionnement des archétypes divins, du rôle des dieux, si vous préférez, en gros, de tenter d'expliquer le pourquoi du comment du fonctionnement de l'univers, si vous voulez. Alors, il se trouve que l'Égypte pose déjà une première difficulté. Sommes-nous face à un polythéisme tout à fait classique, donc c'est-à-dire une croyance en de multiples divinités, bien séparées, bien ordonnées, ou se trouve-t-on face à un monothéisme, un culte d'une divinité unique qui prend différents aspects? Eh bien, c'est très délicat, et c'est un petit peu des deux en réalité. Pour faire un petit comparatif, dans la religion chrétienne, par exemple, il y a un Dieu manifesté sous trois formes différentes, le principe de la Trinité, si vous préférez, mais il y a bel et bien un Dieu unique, il n'existe pas d'autres divinités. Dans la mythologie nordique, par exemple, il existe un panthéon avec plusieurs divinités, tous ayant des rôles bien définis, des fonctions bien définies et pouvant s'opposer entre eux. Il n'y a pas une divinité unique duquel sont nées toutes les autres. Donc c'est un véritable polythéisme. En Égypte, ce n'est pas tout à fait la même chose. À l'origine, si on fait une simplification avant de rentrer dans le détail de chaque cosmogonie, il y a une sorte d'océan primordial, une béatitude primaire que l'on appelle le Noun. Voilà, l'océan primordial, encore une fois, ou les eaux au sens primitif. De là va émerger, naître de lui-même, dans une fleur de lotus habituellement, une première divinité, qui va prendre des noms différents suivant les régions. Cette première divinité va, avec son souffle, le ver, le logos si vous préférez, créer d'autres divinités. Mais en Égypte, il y a donc bel et bien une divinité d'origine, un point de commencement, un démiurge créateur du monde et de cette organisation, et qui va par son pouvoir manifester d'autres divinités, d'autres aspects de son propre pouvoir, si l'on peut dire. Donc en Égypte, nous sommes bel et bien sur une sorte de monothéisme primitif qui a une apparence de polythéisme, puisque certains chercheurs vont même aller jusqu'à nous dire que toutes les divinités de l'Égypte ne sont qu'une manifestation de cette divinité primordiale. Et de ce fait, on pourrait faire un comparatif avec le mazdéisme ou même le zoroastrisme, avec ce principe de cette divinité unique, Ahura Mazda, qui manifeste son pouvoir sous des formes différentes par un panthéon de divinités. Donc l'Égypte n'est pas un véritable monothéisme en soi, mais néanmoins peut en prendre certains aspects, et ce qui peut d'ailleurs, par les jeux d'influence, expliquer en partie le développement du monothéisme chez les Hébreux par la suite. Faisons un point également sur la réforme d'Akhénaton. Il est habituel de voir sur Internet, ou même dans certains livres, que Akhénaton, Amenophis IV de son vrai nom, a imposé un culte monothéiste en Égypte, avec le culte du dieu solaire Aton. Mais ce n'est pas tout à fait cela en réalité. En réalité, Akhénaton a décidé qu'au lieu de mettre le dieu Ra, Atum ou encore Amon-Ra sur le piédestal du démiurge primordial, il y a imposé le disque solaire sous la forme d'Aton. Mais tout en considérant, ou plutôt en ne niant pas l'existence des autres divinités, mais en considérant tout simplement que toutes ces divinités n'étaient que des manifestations du pouvoir du dieu Aton, et qu'il était donc inutile de révérer ce multiple panthéon divin, et qu'il valait mieux s'adresser directement au démiurge créateur central, qui est le disque solaire Aton. Donc la véritable réforme d'Akhenaton n'est pas d'avoir créé un monothéisme en Égypte, mais plutôt d'avoir changé la personne qui se trouvait sur le trône, en y plaçant le dieu Aton, au lieu d'Amon-Ra, qui était le dieu le plus vénéré de ce temps. Donc, encore une fois, attention aux simplifications et aux raccourcis. Akhenaton n'a pas profondément changé la mythologie égyptienne, il a simplement réorganisé et mis l'accent central sur le dieu Aton. Mais néanmoins, il ne niait pas les manifestations divines d'Aton qui prenaient le nom de d'autres divinités. Donc vous voyez la difficulté, en Égypte, nous sommes bel et bien face à un polythéisme d'usage courant, mais qui peut philosophiquement amener une pensée monothéisme. Voilà, pour faire simple. Étudions maintenant la plus connue des cosmogonies égyptiennes, à savoir l'Énéade d'Héliopolis. Alors, Héliopolis est une cité considérée comme la cité des dieux, si vous préférez, bien qu'Héliopolis soit le nom grec de la ville, bien sûr. Donc, Héliopolis se trouve à proximité, pour être exact, en face du plateau de Gizeh, à proximité de Memphis, et c'était, on va dire, le cœur religieux de l'Égypte, ou du moins de l'Énéade d'Héliopolis. Donc, l'Énéade qui veut dire les 9 divinités principales, donc les 9 qui faisaient l'architecture, on va dire, du cœur de la croyance égyptienne dans cette cosmogonie. Alors, pour la présenter rapidement, comment tout ceci se passe? Donc, à l'origine, il y a le Noun, l'océan primordial, les eaux primitives, la béatitude. De cette béatitude primordiale va apparaître une fleur de lotus, cette dernière va éclore et va donner naissance à un être qui s'appelle Atum. Alors, Atum est le grand démiurge, l'organisateur du monde, celui par lequel tout sera créé, mais Atum lui-même va se diviser, si l'on peut dire, en 3 parties. La première qui est Atum, le deuxième Ré et le troisième Képri. Alors, Képri représente le soleil du matin, le soleil qui se lève, donc l'émergence du pouvoir solaire. Ré ou Ra représente le soleil à son zénith, c'est-à-dire au cœur de la journée, le moment où il est le plus puissant. D'où son appellation courante de Ra comme manifestation du pouvoir divin. Et Atum devient, alors outre le fait d'être le démiurge créateur de l'origine de toute chose, Atum est également le nom du soleil couchant, c'est-à-dire le soleil mourant à son zénith, le vieux roi qui doit céder sa place. De cet état Atum, ou Atum, Ré, Képri, peu importe, va engendrer le premier couple divin, Chou, l'air, ou le sec, si vous préférez, et de l'autre côté, Tefnout, divinité féminine, qui représente l'humidité. Donc, vous voyez la dualité de l'opposition entre le sec et l'humide. Ensuite, de là vont naître deux autres divinités, de Chou et de Tefnout, qui seront donc Geb, la terre, et Nout, le ciel. Donc, on voit cette manifestation dualiste toujours, le sec et l'humide, et de l'autre côté, le sol, la terre et le ciel. Donc, toujours ce dualisme de la création du monde. Ensuite, Nout et Geb vont également avoir des enfants, pour être exact, 5. Il y aura tout d'abord 2 couples de jumeaux, Osiris et Isis, puis ensuite Seth et Nephthys. Et pour finir, un 5e personnage, Horus l'Ancien, ou encore Haroéris, pour le différencier de Horus, fils d'Osiris et d'Isis par la suite. Donc voilà, sensiblement, les divinités principales qui forment donc l'Énéade d'Héliopolis. Donc l'Énéade d'Héliopolis, qui est en réalité composée donc de 9 divinités, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Haroéris, Geb, Nout, Chou et Tefnout. Ra Atum n'est pas considéré vraiment dans cette Énéade, il est au-dessus, et Horus l'Ancien fait partie d'une génération plus récente, puisqu'il sera plus tard donc l'héritier, le pharaon régnant, etc. On verra quand on étudiera les mythes. Alors, l'Énéade d'Héliopolis peut se représenter allégoriquement sous cette forme. Donc, on voit un personnage tout en bas, installé sur le sol, qui donc est Geb, représentation de la terre, et au-dessus, qui forme la voûte, le ciel étoilé, si l'on peut dire, qui est donc Nout, la déesse du ciel. Au centre, avec les bras tendus comme s'il portait la déesse Nout, il s'agit de Ra, ou de Atum, encore une fois, donc le pouvoir du démiurge. Et puis, de chaque côté, avec des têtes de bélier, se trouve Tefnout, et Chou, qui aidera dans son office, qui aide à la création, formant symboliquement un petit peu les 4 points cardinaux. Ou du moins, c'est la lecture que je fais de cette représentation, qui donc représente l'architecture symbolique du monde. Alors, quelques petits points supplémentaires, donc des choses qui appartiennent à la cosmogonie d'Héliopolis. Donc, c'est certaines manifestations du pouvoir de Ra. Alors, l'une des premières qu'on appelle le Bennu. Alors, qu'est-ce que c'est le Bennu? C'est le Ba. Donc, le Ba comprenait, en simplification, on va dire l'esprit. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est le Ba, l'esprit de Ra, qui, symboliquement, meurt chaque jour et renaît chaque jour. Et c'est, au niveau symbolique et mythologique, une sorte d'ancêtre du mythe du phénix qu'on va retrouver chez les Grecs. Vous savez, cet oiseau qui meurt dans ses propres flammes et qui ressuscite de ses propres cendres tous les jours. Eh bien, le Bennu, c'est la manifestation de Ra qui doit mourir chaque jour sous la forme d'Atum et renaître chaque matin sous la forme du Khepri. Et donc, il est habituel de le représenter sous la forme de cet animal et qu'on appelle donc le Bennu. Alors le Bennu, ce n'est pas Ra, ce n'est pas Khepri, ce n'est pas Atum, c'est le Ba, c'est-à-dire l'esprit qui appartient à Ra. Donc une manifestation de l'entité complète qu'est Ra. Le Ba n'étant qu'une des composantes de l'entité du dieu. Ensuite, on retrouve également le Mnévis. Alors le Mnévis, c'est le taureau sacré, incarnation physique de Ra. Donc comprenez, incarnation physique en opposition avec l'incarnation spirituelle, le Bennu. Donc, le taureau a toujours été en Égypte un animal sacré, le symbole, encore une fois, du sacrifice terrestre. Donc, le taureau est un animal qu'on sacrifie symboliquement pour régénérer la terre, mais qui ressuscite sous sa forme spirituelle. Il ne ressuscite pas physiquement. Et là, vous voyez toute la complexité de la symbolique égyptienne. Donc, le dieu Ra peut être représenté sous de nombreux aspects. Il peut être représenté sous la forme d'un bonhomme avec un disque solaire, il peut être représenté sous la forme du Mnévis, du taureau sacrificiel qui se sacrifie pour gérer le monde, mais il peut également être représenté sous la forme du Bennu, donc avec cette symbolique du phénix qui ressuscite de ses propres cendres chaque matin. Alors ça, c'est les éléments fondamentaux de la cosmogonie d'Héliopolis. Alors, c'est la cosmogonie la plus fréquente en Égypte et qu'on pourrait considérer comme majoritaire, comme dominante. À partir du Nouvel Empire, enfin du moins dans la dernière phase du Nouvel Empire, on peut dire que c'est la cosmogonie principale de l'Égypte, mais elle-même, dans ses mythes, va intégrer certains éléments des autres cosmogonies que nous allons voir. Quand les Grecs arrivent en Égypte, Hérodote prononcera d'ailleurs une phrase intéressante lors de son enquête, où il va tenter de collecter les différents mythes égyptiens afin d'établir une cosmogonie égyptienne, il va considérer donc que les Égyptiens n'ont aucune cosmogonie centrale et que chaque ville possède ses propres croyances, ses propres spécificités, mais néanmoins, les Grecs plus tard de la période ptolémaïque vont prendre en référence la cosmogonie d'Héliopolis. Donc, quand on fait des recherches rapides sur Internet sur la mythologie égyptienne, nous trouvons toujours la cosmogonie d'Héliopolis, c'est celle qui est habituellement connue et qu'on retrouve dans les émissions ou les documentaires qui parlent de l'Égypte. Il est très rare que soient mentionnées les autres cosmogonies. Et justement, en parlant de ça, nous allons passer à la deuxième plus connue qui s'appelle l'Ogdoade, donc comprenez 8 divinités, l'Ogdoade d'Hermopolis. Alors, Hermopolis, une autre cité importante de l'Égypte, une autre cité sacrée. Alors, comment se passe cette cosmogonie? Eh bien, à l'origine, nous retrouvons cet océan primordial. Eh bien, non, on ne retrouve pas tout à fait cet océan primordial. Bien qu'il y ait des variantes par manque de sources, il est très difficile d'établir avec précision cette cosmogonie. D'où je vais vous donner ces deux versions principales. Alors, la première, la plus répandue, considère qu'à l'origine, il y a le dieu Thoth. Alors, le dieu Thoth, vous connaissez, hein, tête d'ibis, dieu de la sagesse, de l'intelligence, de la magie, etc. Mais dans l'Ogdoade d'Hermopolis, il est bien plus que ça, puisqu'il est le démiurge à l'origine de toute chose. Thoth va manifester, donc par son verbe, par son souffle ou encore une fois son logos, il va manifester 8 divinités, 4 masculines et 4 féminines qui fonctionnent en binôme. Alors, on trouve Noun et Nounet, donc les eaux primordiales, on retrouve Kheth et Kekhet, oui je sais c'est rigolo, manifestation des ténèbres, Amon et Amonet, l'instabilité, et Hé et Hehet, l'espace sans fin. Ces 8 divinités représentent à elles l'entièreté du monde, l'entièreté du cosmos, mais qui n'est pas encore ordonnée. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est le chaos primordial. Le chaos primordial est représenté par ces 8 aspects, peut-on dire. Et ces 8 divinités vont unir leur pouvoir pour donner naissance à une nouvelle divinité qui s'appelle Ra. Enfin, ils vont donner, les 8 divinités entre elles vont donner naissance à une fleur de lotus, et de cette fleur de lotus va éclore et donner naissance à Ra. Donc, le démiurge, l'organisateur du monde, qui va donner de l'ordre dans ce chaos primordial, et qui va donner naissance à l'Énéade divine, où nous allons retrouver les 9 autres divinités citées préalablement, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Shu, Tefnut, Geb, Nut et Haroéris ou Horus l'Ancien. Cependant, l'Ogdoade d'Hermopolis a une petite variante. Alors cette variante, je vous l'expose. Dans cette deuxième version, il y a à l'origine les eaux primordiales, et ces eaux primordiales vont se matérialiser, se manifester sous 8 aspects, qui sont donc Nun, Nunet, Ket, Keket, Amon, Amonet et Eet. Donc les 8 divinités primordiales, ça on retrouve la même chose. Ces 8 divinités primordiales vont s'unir de la même façon que dit précédemment pour donner naissance à une fleur de lotus qui va éclore et qui va donner naissance au dieu Ra. Sauf que dans cette deuxième version, il n'y a pas Thoth en tant que démiurge primordial. C'est Ra, qui est né de la fleur de lotus et des 8 divinités primordiales, qui va donner naissance par son souffle au dieu Thoth. Et Thoth, ensuite, par le Logos, par son pouvoir, va manifester ou donner naissance à tous les aspects des dieux, à toutes les constantes de la création, ou si vous préférez, à l'Énéade divine. Donc, la grande différence entre les deux versions de l'Ogdoade, c'est que soit Thoth est mis comme divinité primordiale et première de toute chose, ou alors dans une deuxième version, Thoth est l'architecte du monde et suit la création de Ra. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de consensus sur quelle est la bonne version de l'Ogdoade d'Hermopolis. Les spécialistes se battent encore sur le sujet. Alors, ensuite, autre cosmogonie des plus intéressantes, il s'agit du mythe de la création de Memphis. Alors, Memphis était une des deux villes principales de l'Égypte antique. Hein, je vous rappelle, Thèbes dans la Haute-Égypte et Memphis dans la Basse-Égypte. Et le dieu principal de la ville de Memphis était, et ce depuis l'Ancien Empire, le dieu Ptah. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais l'Ogdoade d'Hermopolis est une cosmogonie dont on peut attester l'existence sensiblement au Moyen-Empire, et qui va perdre en importance pendant le Nouvel Empire au profit de l'Énéade d'Héliopolis. Voilà pour cette petite dégression. Alors, à Memphis, la cosmogonie est relativement simple encore une fois. On retrouve le Nun, l'océan primordial, la béatitude, les eaux primitives. De là va émerger une divinité qui s'appelle le Ptah. Alors Ptah est un démiurge chthonien, précisons-le, et ça c'est une différence fondamentale avec la cosmogonie d'Héliopolis, ou même l'Ogdoade d'Hermopolis, avec ses dieux solaires qui ne sont pas chthoniens. Ptah, inversement, se traduit par le dieu, c'est une sorte de dieu caché, une sorte de dieu souterrain, peut-on dire, donc chthonien, encore une fois. Et il se sépare lui-même pour donner naissance à sa parèdre féminine, qui est la déesse Net, alors qui plus tard sera parfois associée à Isis, etc. Tout ça. Donc Ptah, le démiurge octonien, dieu des artisans, dieu des sciences cachées et tout un tas d'autres choses, est le démiurge organisateur du monde. Mais lui-même, il va donner naissance à 2 divinités. En gros, il va séparer la création en 2 aspects primordiaux, que sont d'un côté Ra, le dieu solaire, dieu du jour, et de l'autre côté, Thoth, le dieu lunaire, le dieu de la nuit. Donc, comment cela s'explique au niveau cosmogonique? Eh bien, Ra règne sur le monde pendant la journée, pendant les 12 heures du jour, et Thoth règne pendant la nuit, pendant les 12 heures de nuit. Il n'y a pas de connotation bénéfique ou maléfique dans cette histoire. Alors ensuite, c'est le dieu Ra qui va manifester tous les éléments de la création, c'est-à-dire l'Énéade divine, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Shu, Tefnut, Geb, Nut et Haroéris ou Horus l'Ancien. Thoth ne crée pas à proprement parler de divinité, mais il est à l'origine de la création de tous les éléments magiques, donc tous les éléments, ou ce qu'on pourrait appeler les forces invisibles, si vous préférez. Donc Ra est le créateur du visible, Thoth est le créateur de l'invisible. Alors, un élément très important de cette cosmogonie est le moment où Isis, la femme d'Osiris, va utiliser ses pouvoirs magiques et sa ruse afin de voler le nom secret de Ra. Alors on verra c'est quoi la notion du nom secret par la suite quand on parlera des composantes de l'être. Mais donc voilà, pour rester simple pour le moment, Isis vole le nom secret de Ra, s'approprie une partie de son pouvoir et Ra lui-même perd une partie de son pouvoir. Et donc à ce stade, dans la cosmogonie de Memphis, Isis devient la plus puissante divinité du Panthéon et devient la reine de la magie et est capable, enfin du moins possède des pouvoirs démiurgiques. Ça c'est très important puisque ces éléments de la cosmogonie de Memphis seront réutilisés et réemployés dans certains des mythes égyptiens, mais surtout dans la création du culte à mystère d'Isis qui aura lieu bien des siècles plus tard. Alors, La cosmogonie de Memphis est très intéressante parce que c'est une des plus anciennes et on peut attester son existence à partir de la fin de l'Ancien Empire. Donc elle est au moins aussi ancienne, voire plus, que la cosmogonie d'Héliopolis. Alors, le Diopta a une représentation qui est relativement intéressante puisqu'il possède une sorte de coiffure étrange ou une sorte de casque de couleur bleue. Lui-même est de couleur verte, ce qui vous rappellera bien sûr Osiris, qui est habituellement représenté de couleur verte, et possède des vêtements avec quelques jeux de couleurs intéressants. Il possède symboliquement le bâton de commandement, le principe du pouvoir démiurgique, qu'on va retrouver dans d'autres mythes analogues, avec le principe du bâton de commandement de Moïse, ou encore d'autres choses. Alors, le Diopta a été vénéré principalement à Memphis, hein, même si on va retrouver son culte dans de nombreuses villes égyptiennes, puisqu'il est quand même un des principaux démiurges de la civilisation d'Égypte. On va retrouver certaines écritures qui attestent encore une fois de son existence dans les temps relativement anciens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la cosmogonie de Memphis, sans être la principale de l'Égypte, va suffisamment avoir d'importance pour qu'elle soit, du moins que certains de ses éléments, et notamment le Diopta, soient reprises dans les autres cosmogonies. C'est pour ça qu'on va retrouver le titre de Ptah qui va être accolé à d'autres divinités. En Égypte, il est important de préciser que les divinités peuvent prendre des titres en plus de son nom. Et ainsi, par exemple, le dieu Horus, parfois, va s'appeler Horus Ra Horakhti, ce qui veut dire qu'il est le dieu Horus, il est l'héritier du trône de l'Égypte symboliquement, mais il possède le titre de Ra, sous-entendu en lui se manifeste l'esprit du dieu solaire, et il possède le titre d'Horakhti, qui veut dire le soleil actif en mouvement, donc manifestation de son pouvoir temporel. Puis parfois on va retrouver d'autres titres comme Ptah Horus Horakhti, donc qui veut dire que Horus est la divinité régnante, mais le titre de Ptah préalablement veut dire qu'il possède en lui le pouvoir démiurgique du dieu de Memphis, et Horakhti qui veut dire qu'il a aussi la manifestation du pouvoir du soleil temporel en mouvement. Donc quand on retrouve le titre Ptah Horus Horakhti, là on peut dire concrètement qu'on attribue à Horus les pouvoirs des démiurges, d'Héliopolis et de Memphis, manifestation toute puissante des pouvoirs en une seule divinité, bien sûr. Donc il est habituel, encore une fois, dans l'Égypte, de faire des compositions de noms, chacun de ces noms pouvant représenter une composante divine qu'on accole à un personnage dans certaines situations pour le révérer, etc., à un pouvoir particulier. Alors, la cosmogonie de Memphis est très complexe et peut même parfois se contredire en son sein, puisque Ptah est à l'origine de la création de Ra et de Thoth, mais on considère également que c'est lui-même parfois qui crée tout un tas d'autres divinités directement, sans passer par des intermédiaires. Mais toutes ces divinités ne sont pas des êtres proprement créés, mais plutôt des êtres émanés de lui, émanés qui sont des représentations, encore une fois, d'une facette de son pouvoir. Alors c'est ainsi que Ptah va créer 8 divinités primordiales, Memphite, qui sont Tathenem, représentation de la terre, Nonet, les eaux, Atum, en version masculine et féminine, donc deux divinités, comprenez, qui devient le père et la mère de tous les autres dieux, donc Atum, comprenez également Ra, hein, si vous voulez. Horus, qui représente cette fois-ci l'intelligence de Ptah, mais attention, on ne fait pas référence à Horus, fils d'Osiris et d'Isis, on fait référence à Horus l'Ancien, donc Horus l'Ancien, qui représente donc l'intelligence du Ptah. Thoth, la volonté du Ptah. Néfertum, le dieu Lotus, et un dernier qui est un dieu serpent, d'où le nom, qui n'est pas dont son nom n'est pas connu, mais il est probable qu'il s'agit d'Apophis, le serpent du chaos. Personnage dont nous n'avons pas parlé dans les cosmogonies ultérieures, mais que nous étudierons justement par la suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors ensuite, passons à la cosmogonie d'Esna. Alors celle-ci est très particulière et mérite notre étude. Alors, à l'origine de toute chose, nous ne retrouvons pas forcément les eaux primordiales, mais nous retrouvons une sorte de mère primordiale, une déesse originaire de toute chose, qui s'appelle Neith. Alors, c'est intéressant parce que cette fois-ci, dans la cosmogonie d'Esna, on est plutôt sur un panthéon plutôt matriarcal, puisqu'on place une divinité dans un rôle démiurgique. Alors, Neith crée à l'origine les 7 propos créateurs qui engendrent la terre et les eaux, le cycle du temps et de l'année solaire et lunaire, l'alternance du jour et de la nuit. Alors elle sera à l'origine de plusieurs divinités. La première qu'elle crée, c'est Sobek, le crocodile destructeur. Alors Sobek est la manifestation masculine hein, de Neith, mais Sobek lui-même va donner naissance, ou plutôt se diviser,
Enfin, oui, il donne naissance à Ra, le dieu solaire, donc le démiurge actif, si l'on peut dire, mais chaque soir, Sobek dévore Ra, et chaque matin, il recrée, il redonne naissance à Ra. Donc on a ce principe créateur-destructeur avec le dieu Sobek Ra, qui est en fait la même divinité, sous son aspect créateur et sous son aspect destructeur. Donc Ra serait peut-être, mais nous n'avons pas de certitude cosmogonique, à l'origine de la création de l'Énéade divine ensuite, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Chou, Tefnout, Geb, Nout et Horus l'Ancien. Ensuite, naît la mère primordiale, donne également naissance à Khnoum. Donc Khnoum, qui peut aussi prendre le rôle de démiurge, le principe masculin actif, donc le bélier qui était l'animal sacré par essence en Égypte, bien sûr, et donc Khnoum pourrait également être candidat à la création de l'Énéade divine. Donc difficile d'avoir une certitude sur ce sujet. Alors, comprenons aussi que Neth, à l'origine de la création de toute chose, a créé quelque chose de purement positif. Donc là, on va retrouver une notion de bien et du mal, avec soit Khnoum, Ra, qui sont l'aspect positif démiurge organisateur du monde, et de l'autre côté, elle va expulser d'elle-même, par un crachat, toutes les mauvaises choses. Et ces mauvaises choses vont s'agglutiner pour former Apophis, le serpent du chaos, qui est l'antithèse de l'ordre, celui qui tente de dévorer perpétuellement la création. Dont, encore une fois, on va reparler par la suite. Alors, pour s'intéresser au personnage intéressant de cette cosmogonie qui est Khnoum, donc Khnoum est le dieu des caractères, le dieu de la puissance créatrice. Son temple principal se trouve bien sûr à Esna. Donc le temple de Khnoum est un temple égyptien dédié au culte de Khnoum, Eka et Neth. La construction de ce temple commença sous Ptolémée VII et se termina durant la domination romaine sous le commandement de Claude, puis de Marc Aurèle. Donc il faut bien comprendre encore une fois que les temples, les dieux égyptiens ont continué à perdurer encore une fois sous les époques hellénistiques et sous les époques romaines. Khnoum sera toujours un dieu important de l'Égypte, même s'il sera absorbé progressivement lui aussi par la cosmogonie héliopolitaine, mais le Khnoum devient souvent un titre qu'on affuble à une autre divinité pour matérialiser son pouvoir et encore une fois permettre de créer le syncrétisme religieux entre la cosmogonie d'Esna et les autres. Alors maintenant nous allons nous intéresser à un cas très particulier qui est celui du dieu Amon, le dieu de Thèbes. Alors le dieu Amon peut être attesté de son existence sensiblement à la fin de l'Ancien Empire, mais uniquement dans la ville de Thèbes. Donc c'est un dieu national, enfin c'est un dieu local pour être exact, c'est un dieu qui ne dépasse pas les frontières de la cité de Thèbes, donc il est propre à la ville, hein, c'est un, voilà, un dieu local, ni plus ni moins, qui n'a pas une importance conséquente. Or, il se trouve sur un point de vue historique que après la première période intermédiaire, donc qui succède à l'Ancien Empire, il va vers le Moyen Empire. Or, le Moyen Empire, c'est une unification de l'Égypte, donc de la Basse et de la Haute Égypte, mais sous le règne du pharaon qui est originaire de la ville de Thèbes. Et donc c'est grâce à cela que le pharaon en question va étendre le culte d'Amon dans toute l'Égypte, si l'on peut dire. Et donc Amon, qui était un dieu totalement mineur de l'Ancien Empire, devient un dieu majeur, un dieu prioritaire lors de la période du Moyen Empire. Et encore plus, bien évidemment, au Nouvel Empire, quand il y aura le syncrétisme entre Amon et Ra. Alors, il est originaire à l'origine de l'Ogdoade d'Hermopolis, donc c'est un dieu qu'on retrouve dans les 8 divinités de l'Ogdoade d'Hermopolis. C'est un dieu tutélaire de la ville de Thèbes. Son nom veut dire le caché ou l'inconnaissable. Il naît, donc sur ce point, il est très proche de Ptah, de Memphis, hein. Ils ont sensiblement la même représentation. On pourrait dire sensiblement que Amon efface Ptah par son importance au cours de l'histoire égyptienne, mais Ptah avait quand même suffisamment de poids pour rester un titre qu'on affuble aux autres divinités. Donc, chose importante par contre, Amon, il n'est jamais représenté sous sa véritable forme, qui est totalement inconnue. Habituellement, on le représente souvent sous la forme d'un pharaon, en fait, avec les couronnes de Haute-Égypte et plus tard de Haute et de Basse-Égypte. Il est un dieu aux multiples facettes et prend différents aspects suivant les situations. Sous la forme d'un serpent, il fertilise l'œuf cosmique de la création, façonné dans les eaux primordiales. Il prend alors un rôle de démiurge, mais uniquement dans la cosmogonie thébaine. Il existe lors de l'Ancien Empire, dans les textes des pyramides. Il est considéré comme un des dieux protecteurs de Pharaon pour son ascension. Au Moyen Empire, on peut le retrouver aussi sous la forme d'un bélier, donc il reprend l'archétype de Khnoum, vu précédemment. Il est le dieu principal de Karnak, puisque c'est un temple qui lui est dédié. Et Amon devient la divinité nationale par excellence, unificateur de l'Égypte, qui a permis la victoire d'Amosis sur les envahisseurs Hyksos. Amosis, donc, qui était également un pharaon issu de la ville de Thèbes. donc qui a vaincu les envahisseurs Hyksos au commencement du Nouvel Empire. C'est à l'époque archaïque grecque, donc comprenez 4e siècle, comprenez 4e siècle avant Jésus-Christ, que Amon l'Égyptien était assimilé à la divinité grecque Zeus lors de la conquête d'Alexandre le Grand, et ce sont les Cyréniens qui le feront connaître au monde grec en tant que Amon Zeus par la suite. En réalité, la connaissance de le syncrétisme entre Amon et Zeus existera donc, comme dit, dans la période archaïque, c'est-à-dire sensiblement 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, et sera déjà un petit peu connu dans le monde grec, hein, d'où les syncrétismes qui existaient déjà. Alors voilà pour cette présentation des principales cosmogonies de l'Égypte antique. Alors, je vous ai présenté les plus connues, en réalité, il en existe d'autres, notamment la cosmogonie d'Éléphantine, qui va faire intervenir le dieu Thoth, le dieu Khnoum et la déesse Net. On va retrouver également la cosmogonie d'Edfou, qui va faire intervenir un dualisme primordial entre Sobek et le dieu Horus. Mais ces cosmogonies n'apportent pas énormément d'informations et de plus sont très peu documentées. C'est-à-dire que nous connaissons quelques noms divins, mais nous ne connaissons pas les interactions entre les différentes divinités, ce qui fait qu'elles n'apporteraient pas grand-chose à notre propos, si ce n'est quelques doutes et certaines incompréhensions. Alors, nous allons passer maintenant dans la deuxième partie, on va voir le plan de cette partie, on va présenter un petit peu le récit des divinités dans la mythologie égyptienne. Alors, le récit des divinités, on va tenter de l'établir sur un point de vue à peu près chronologique, même si la notion est très abstraite, encore une fois, pour la mythologie égyptienne, qui place des éléments, mais qui ne sont pas forcément cohérents entre eux. C'est-à-dire que la mythologie grecque, par exemple, se veut cohérente dans son intégralité. Alors, quand je dis mythologie grecque, j'entends la théogonie d'Hésiode, se veut cohérente du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie logique, une cohérence d'action-réaction entre tous les éléments de la mythologie grecque. Donc, on peut faire une lecture littérale de la mythologie grecque afin de comprendre tous les tenants et les aboutissants des réactions divines. Chaque action a un but précis, provoque une réaction et engendre des éléments cohérents, encore une fois. Donc, on peut prendre la mythologie grecque, voilà, pas d'incohérence majeure chez les Grecs. Dans la mythologie égyptienne, ce n'est absolument pas le cas. Tout est par nature incohérent. Il n'y a pas de logique entre la présence d'une divinité à un tel endroit qui fait telle action. Les enfants peuvent participer à l'enterrement de leurs parents avant leur naissance. Vous voyez l'idée. Donc c'est quand même des choses très particulières. Donc, il ne faut pas chercher une cohérence littérale au mythe égyptien. Chaque mythe véhicule un enseignement à connotation religieuse, éventuellement spirituelle, mais il ne faut pas chercher encore une fois une explication précise, littérale, de la cosmogonie. Alors, ces différents récits divins, on va les présenter dans ce qu'on pourrait estimer être une chronologie, puisqu'on essaie nous-mêmes de mettre de la cohérence, c'est le défaut de notre époque, on veut absolument mettre nos modèles de pensée sur les mythologies anciennes, cela ne fonctionne pas, mais néanmoins, pour appuyer le raisonnement, on va quand même s'y atteler pour les mettre dans un certain ordre. Et tous ces récits divins sont basés sur la cosmogonie d'Héliopolis. Ça, c'est important, puisque c'est la plus documentée, la majoritaire, peut-on dire, et celle qui sera transmise majoritairement par les auteurs grecs. En revanche, au milieu de ces récits divins, on va voir des éléments qui sont justement incohérents par rapport à la mythologie d'Héliopolis. Et donc, on va essayer de voir quelles sont les influences des autres cosmogonies dans ce récit divin qui nous a été donné dans une version grecque, si l'on peut dire. Donc, on attaque la deuxième partie. Alors, les récits divins. Nous allons parler tout d'abord de la barque du soleil, ensuite du combat contre Apophis, le serpent du chaos. Nous parlerons de Thoth et du jeu du temps avec la déesse Nout. Nous parlerons des règnes de Chou et de Geb qui succèdent à Ra. Ensuite, nous parlerons du règne et de la mort d'Osiris tué par Seth. Nous parlerons de l'épisode de l'œil d'Horus, Horus l'Ancien pour être exact. Ensuite, le vol du nom de Ra par la déesse Isis. Nous parlerons, pour finir, de la guerre de succession entre Seth et Horus pour le trône d'Égypte, et nous parlerons également de la succession d'Horus avec les pharaons qui règnent sur l'Égypte, la haute et la basse Égypte. Puis nous parlerons également des allégories historiques qui se trouvent au sein des mythes, avec quelques exemples qui sont très intéressants. Alors commençons directement avec la barque du soleil. Donc, au moment, je vous rappelle, toujours dans la cosmogonie d'Héliopolis, Ra est née d'une fleur de lotus, elle-même née de l'océan primordial, le Noun. Donc Ra commence à... Enfin, Atum, à l'origine, commence à, avec son verbe et son souffle, à donner naissance aux éléments de la création, il donne naissance aux autres divinités, mais surtout au commencement des choses, il organise le monde avec la terre, le ciel, etc., tout ce que vous voulez, en donnant naissance aux divinités, comprenez-le bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lui-même vit sur la barque du soleil, c'est-à-dire qu'il conduit le soleil à travers du monde et il disparaît chaque soir pour renaître chaque matin. Donc, en gros, comprenez qu'à ce stade, Ra a créé la notion du temps. Et du coup, il a engendré une divinité, dans la cosmogonie d'Héliopolis, il a engendré le dieu Thoth, afin que ce dernier représente le pouvoir invisible, le pouvoir de la magie, et surtout, il lui a confié la garde du monde pendant son absence, c'est-à-dire pendant la nuit. Donc, la barque du soleil se lève à l'est, le soleil sur la barque se déplace jusqu'à l'ouest, il disparaît, et ensuite, la surveillance du monde appartient aux forces magiques, au dieu Thoth, le dieu de la lune. La lune étant présente majoritairement du temps quand le soleil est absent, même si les deux peuvent se trouver en même temps à certains moments, ce qui a engendré d'autres mythes en Égypte antique, bien entendu. Donc cette barque du soleil a créé le cycle du temps et du recommencement perpétuel. Le cycle des saisons en est la suite logique, le cycle de l'année en est une suite logique également, etc. Et cette barque du soleil fait son voyage tous les jours, tous les ans, et pour l'éternité. Mais cela engendre un deuxième mythe, qui est celui du combat contre Apophis. Alors là, se pose tout d'abord une difficulté. D'où vient Apophis? Alors, dans la cosmogonie d'Héliopolis, on ne retrouve pas d'éléments qui expliquent la naissance d'Apophis, le serpent du chaos. Donc Apophis est une sorte de monstre primitif, dont la seule ambition, le seul but, si l'on peut dire, même si la notion de but est toute relative, est de dévorer l'entièreté de la création, en gros la faire retourner au chaos primitif. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Apophis est né lui-même du chaos primitif? Est-ce qu'il est sa manifestation composé des résidus de ce que Ra n'a pas employé pour donner la création? Est-ce qu'inversement, il est créé par Ra comme antithèse? Cela ne me semble pas extrêmement cohérent. Alors, de là, ça nous renvoie à la cosmogonie d'Esna. Donc, dans la cosmogonie d'Esna, Apophis est né de Neith, la mère primordiale. Donc, il est un frère de Ra, de Ra Sobek, dans la cosmogonie d'Esna. Inversement, dans la cosmogonie de Memphis, et c'est là, je pense, qu'il faut chercher l'origine, eh bien, le dieu Ptah, quand il manifeste les 8 formes de son pouvoir, crée un serpent. Et ce serpent pourrait éventuellement être Apophis. Donc, il me semble envisageable que Apophis soit une figure allégorique d'une force primitive qui existe dans cette béatitude primordiale. Là où la cosmogonie de Memphis est particulièrement intéressante, c'est qu'elle offre des puissances qui existent au moment primordial avec le Ptah. Ra ne représente que la divinité active, organisatrice du monde, donc un véritable démiurge, et non pas un dieu au sens monothéiste, ce que Ptah pourrait représenter sur certains aspects. Donc il me semble, dans tous les cas, si l'on compare les cosmogonies, que Apophis serait une sorte d'antithèse à Ra, mais qui n'a pas été créée par lui. Ça, c'est très très important. Alors du coup, Apophis, le serpent du chaos, tente de dévorer la barque du soleil et par extension, il tente de dévorer toute la création. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un mythe eschatologique, un mythe de la fin des temps, puisqu'on considère que Ra combat tous les jours sur sa barque le serpent Apophis pour le repousser. Il réussit à le repousser chaque jour, mais Ra s'épuise de jour en jour et arrivera un temps où il ne réussira pas à repousser Apophis le serpent du chaos. Et de ce fait, la création sera dévorée par le monstre et retournera à son état de béatitude primordiale. Donc, la cosmogonie égyptienne, enfin la mythologie égyptienne, nous offre un commencement avec l'émergence de la fleur de lotus et la naissance de Ra ou d'un autre démiurge, peu importe, et nous offre une fin prophétique avec le moment où le serpent du chaos réussira à dévorer la création, ce qui pourra engendrer un retour de la béatitude primordiale et éventuellement une autre création. Cela pourrait être intéressant de faire un comparatif avec la mythologie indienne, avec les cycles de Shiva, avec ces cycles de création, de destruction qui se reproduisent sans cesse, etc. Donc, du coup, c'est une eschatologie qui est proposée dans la mythologie égyptienne, mais pas forcément une eschatologie définitive, puisqu'elle peut elle-même inclure un cycle de recommencement perpétuel. Alors, dans tous les cas, Ra s'épuise de jour en jour et combat perpétuellement le serpent du chaos. Nous reverrons la suite de ce combat un petit peu plus tard. Alors, ensuite, donc, Ra a donné naissance à Chou et Tefnout. Eux-mêmes ont donné naissance à Geb et Nout. Mais il se trouve que Geb et Nout sont très amoureux l'un de l'autre, sont très attirés l'un par l'autre. Ah, l'amour, ça fait des miracles. Et Ra ne voit pas ça d'un très très bon œil. Donc là, on est quand même. Ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur un rôle de démiurge avec Ra qui n'a pas de connotation de bien ou de mal, encore une fois. C'est arbitraire. Il a une organisation définie et il ne souhaite pas forcément la changer. Mais Chou et Geb décident de lui désobéir et veulent s'unir, ce que Ra leur refuse. Mais c'est là que le dieu Thoth va intervenir. Le dieu Thoth, donc dieu de la magie, qui a été créé par Ra. Et là, on va se retrouver face à une incohérence. Alors, bon, je vous raconte le mythe et ensuite on parle de Thoth. Donc le dieu Thoth va voir la déesse Nout et lui propose de jouer une partie, alors une partie de jeu, de dés, de cartes, peu importe, on ne sait pas trop, et va lui proposer que si jamais elle l'emporte, Thoth lui permettra de s'unir à son mari Geb. Mais si jamais elle perd le combat contre Thoth, elle devra lui céder son temps, c'est-à-dire sa temporalité. Donc évidemment, le jeu a lieu, évidemment c'est le dieu Thoth dans sa prescience et sa magie qui l'emporte, et la déesse Nout lui offre le temps qui lui est imparti, donc c'est-à-dire 1/72, enfin tout un tas de notions mathématiques. Mais le dieu Thoth va utiliser ce gain, va utiliser ce don que lui a fait Nout pour le lui rendre et lui permettre de s'unir avec le dieu Ra pendant 5 jours qui seraient invisibles aux yeux du dieu Soleil. Alors, je vous rappelle que le dieu Thoth règne sur le monde pendant que Ra est absent, donc il règne pendant la nuit. Mais un acte de création ne peut pas se faire pendant la nuit, il se fait pendant le jour, donc il doit se faire au moment où le soleil brille. Mais, vu que Thoth a gagné une temporalité, il décide de l'offrir à la déesse Nout et à son frère Geb, afin qu'il possède 5 jours invisible aux yeux du dieu Ra. Donc on voit qu'on est à la frontière entre le réel et l'irréel. Donc c'est une explication cosmogonique également pour expliquer le cycle de l'année. Dans le calendrier égyptien, l'année dure 360 jours. Mais comme vous le savez très bien, en réalité, physiquement, l'année dure 365 jours. Eh bien, en fait, c'est une explication des Égyptiens pour expliquer ces 5 jours manquants au cycle de l'année. C'est les 5 jours invisibles aux yeux du soleil, aux yeux du dieu Ra. Et ces 5 jours permettront à Geb et Nout de s'unir et ils donneront naissance à 5 divinités, une par jour, qui sont donc Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Donc, une explication cosmogonique qui fait que l'origine de l'accouplement de Geb et de Nout n'est pas issue du dieu Ra, mais due à son absence et surtout à la magie du dieu Thoth. Alors, la question c'est comment Thoth peut-il posséder des pouvoirs suffisants pour camoufler un élément aux yeux du démiurge organisateur de toutes choses et créateur de toutes choses. Eh bien, là, je pense qu'on a un impact qui nous vient de la cosmogonie de cette fois-ci de l'Ogdoade d'Hermopolis. Eh bien, pourquoi? Parce que dans l'Ogdoade d'Hermopolis, c'est bel et bien le dieu Thoth qui est l'origine de toutes choses et qui précédera d'une certaine façon, du moins dans une de ses versions. Donc, du coup, Thoth, dans cet aspect, est tout-puissant et a suffisamment de pouvoir par sa magie, le Hec, qui lui permet de dépasser le pouvoir de Ra et même de rendre quelque chose invisible au pouvoir temporel, visible et observable de Ra. Donc je pense que par ce récit divin, qui se place dans la cosmogonie d'Héliopolis, encore une fois, mais ça la permet de mettre une importance au dieu Thoth et de montrer qu'il y a un syncrétisme entre les différentes cosmogonies et qu'on a permis de reprendre l'élément démiurgique de Thoth appartenant à une autre cosmogonie. Donc vous voyez tout le jeu des importances où avec le combat d'Apophis, on reprend certains éléments de la mythologie d'Esna. Avec le dieu Thoth, on reprend certains mythes de la cosmogonie d'Hermopolis pour composer les récits divins. Et ça me semble capital, bien que ceci est une théorie personnelle, bien sûr. Alors ensuite, une fois que ces divinités sont nées, il se trouve que Chou et Geb règnent sur le monde. Alors pourquoi ça se passe? Eh bien, Ra a créé la création, mais vu qu'il a fait tout ça, il est occupé lui-même à combattre chaque jour le serpent Apophis, et cela l'épuise. Donc du coup, il ne peut pas consacrer son temps à régner sur le monde. Donc il va déléguer son pouvoir, il va déléguer sa suzeraineté à son fils aîné, qui est Chou. Chou règne sur le monde. Mais il se trouve que Apophis, le serpent du chaos, lui aussi a engendré une descendance. Cette descendance est faite de serpents, de créatures démoniaques, diaboliques, tout ce que vous voulez, etc. et décide de combattre le monde. Alors Shu va devoir lever les armées pour affronter les serpents d'Apophis, mais il réagit un peu tardivement. Et ce qui fait qu'il va réussir à combattre les serpents d'Apophis, mais néanmoins va se faire blesser mortellement, enfin blesser conséquemment pendant cette bataille, vu qu'il n'a pas agi suffisamment tôt, et de ce fait, il n'a plus le pouvoir suffisant pour régner sur le monde. Alors c'est ainsi que du coup, il va lui-même déléguer sa suzeraineté à son fils Geb. Malheureusement, Geb est considéré comme trop immature par le panthéon divin et ne peut pas accéder au trône. Alors du coup, c'est Tefnut, sa mère, qui va assurer la régence. Mais Geb va mal vivre cette éviction, si l'on peut dire, ou du moins cette régence, et va décider de s'en prendre directement à sa mère, Tefnut. Il va la violer, la maltraiter, la malmener, et lui faire mille misères. Et va se proclamer lui-même roi de Haute et Basse Égypte, enfin pharaon régnant en titre. Donc le règne de Geb commence sur de mauvais auspices et n'est pas dans les bonnes faveurs des autres divinités. Évidemment, les forces des ténèbres sont toujours opératives, les serpents du chaos ont été vaincus, mais néanmoins, la corruption d'Apophis a touché les hommes. Alors, les hommes, comprenez, là on se retrouve avec une dualité entre la civilisation égyptienne et les barbares, c'est-à-dire les gens qui viennent d'ailleurs, les Nubiens du sud, les Libyens de l'ouest, ou encore les tribus sémitiques de l'est. Donc, ces peuples barbares sont considérés comme les forces du chaos, les forces hostiles à la civilisation, et attaquent l'Égypte. Le roi Geb va devoir lever des armées. Il va créer l'ordre des prêtres, notamment. Donc c'est là la naissance symbolique de la religion égyptienne. Et il va, on va parler un petit peu quand on parlera des allégories historiques, mais le roi Geb va en gros lever une armée religieuse et militaire pour combattre les hordes de barbares. Mais dans un premier temps, la bataille tourne à son désavantage, sachant que Geb n'est pas dans les bonnes faveurs du dieu Ra et du panthéon divin. Mais un jour qu'il est en train de perdre, il va prendre la couronne de la royauté, c'est-à-dire la couronne de Ra, hein. Couronne de Ra qui était portée bien sûr par Ra, mais qui ensuite a été portée par Shu, et maintenant est portée par Geb. Mais Geb, un jour, la confie à ses prêtres pour la laver, mais ses prêtres, lorsqu'ils vont la laver dans une rivière, dans le Nil, la couronne va couler, et ils vont perdre la couronne de Ra, donc qui est la manifestation de la royauté et la manifestation du pouvoir de Ra. Donc Geb est en train de perdre la guerre, et en plus de ça, il a perdu le symbole de sa royauté. Donc, il va auprès de la rivière, il se lamente, et les forces ennemies s'approchent de lui pour le tuer. Mais de là, de la rivière, va sortir un crocodile, qui en réalité, est la couronne de Ra qui s'est métamorphosée en crocodile. Et donc ce crocodile n'est nul autre que Sobek, le dieu crocodile. Sobek sort de la rivière, il va attaquer l'armée ennemie, il va décimer les forces des barbares, et ensuite, une fois le combat fait, il va se retransformer en couronne et revenir aux mains de Geb. Mais là, ce qui est très important, c'est que Geb retrouve la couronne manifestation du pouvoir de Ra, mais surtout, il acquiert via la couronne la capacité de se métamorphoser lui-même en crocodile et comprenez de ce fait en Sobek. Et donc, il va pouvoir combattre les armées ennemies ayant lui-même le pouvoir du dieu Sobek en lui. Alors, du coup, ça c'est intéressant parce que ça nous renvoie encore une fois, à la cosmogonie d'Esna. Sobek et Ra ne forment qu'un seul et unique être, Sobek le destructeur et Ra le créateur. Donc, la couronne que porte Geb est la couronne de Ra, principe de la royauté et principe créateur, mais elle peut également se transformer en son aspect destructeur sous la forme de Sobek le crocodile. Donc, c'est pour cela que dans les différentes représentations égyptienne, vous verrez souvent que quand le pharaon part en guerre, dans les fresques de représentation, alors pharaon qui est censé être l'héritier d'Horus, l'héritier d'Osiris, l'héritier de Geb, de Chou et de Ra, porte les insignes de Ra, mais porte aussi les insignes de Sobek, car le pouvoir guerrier contre les ennemis, c'est Sobek qui est le protecteur de la guerre, la manifestation du pouvoir destructeur de Pharaon et donc du pouvoir guerrier, si l'on peut dire. Et ça, c'est très très intéressant. On voit encore que le dieu Sobek, qui a un rôle de démiurge, prend également bien présence dans les récits cosmogoniques égyptiens. Nous ferons l'analyse et la symbolique ainsi que l'allégorie historique de cette histoire un petit peu plus tard. Pour le moment, restons dans le récit divin et poursuivons l'aventure avec la succession de Geb. Le dieu de la terre, possesseur de la couronne de Ra-Sobek, décide de laisser son trône à son fils, puisqu'il arrive dans ses vieux jours. Il a combattu longuement, pendant des siècles, les barbares au service du serpent du chaos, Apophis. Donc, Geb a 5 enfants, mais 3 fils. Osiris, Seth, et Aroéris, ou Horus l'Ancien. Il décide de laisser la souveraineté du monde à son fils aîné, à savoir Osiris. Donc, à ce moment, la couronne de Ra-Sobek passe entre les mains d'Osiris, qui sera le dieu civilisateur. Donc, symboliquement, dans la mythologie égyptienne, Osiris est un pharaon particulièrement béni. Il est un pharaon divin, bien sûr. Il est l'héritier de Ra-Shu-Geb et va régner sur l'Égypte. Mais surtout, il est le dieu civilisateur. Il est celui qui apporte la science de l'agriculture, il est celui qui apporte les arts, il est celui qui apporte toutes les composantes de la civilisation, du fait que l'Égypte n'est plus une terre barbare, mais est vraiment un pays qui se développe, encore une fois, une habile matérialisation historique. Son frère Seth, quant à lui, se retrouve échu à régner sur les territoires désertiques, les territoires éloignés du Nil, afin de protéger, pour dire, les frontières de l'Égypte d'une certaine façon aussi. Mais malheureusement, il ne règne que sur des territoires stériles et vides, sans civilisation. Donc, il représente cette antithèse avec Osiris, son frère civilisateur. Horus l'Ancien, quant à lui, se retrouve dans une position relativement neutre, on pourrait dire une sorte de position de sagesse même, relativement éloignée, et qui n'aspire pas à la couronne. Donc on retrouve cette notion intéressante qu'on a un contexte binaire entre Seth et Osiris, mais on entre dans un ternaire avec l'Horus l'Ancien et ce fameux œil d'Horus qu'on va voir par la suite. Alors, malheureusement, Seth est jaloux du règne d'Osiris, le pays ne s'est jamais mieux porté, mais Seth aspire à régner par lui-même. Alors il échafaude un complot, un traquenard, il va piéger Osiris pour le tuer. Donc il organise une fête, il fait fabriquer un cercueil aux dimensions exactes, enfin sarcophage aux dimensions exactes d'Osiris. Il va à la fête, Osiris est bien sûr présent, et il dit au début de la célébration que ce sarcophage magnifique, il l'offrirait à toute personne qui pourrait rentrer dedans et dont les dimensions seraient parfaites. Sauf que problème, il l'avait déjà conçu aux dimensions exactes d'Osiris. Tout le monde dans l'assemblée s'essaye à entrer dans le cercueil, les gens sont trop petits, trop grands, etc. Tout ça, et Osiris finit par lui aussi se prêter à l'exercice, s'installe dans le sarcophage. Immédiatement, les conjurés referment le cercueil, le clouent, et le jette dans le Nil, par la fenêtre. Évidemment, Osiris meurt d'asphyxie ou de noyade piégé dans le fleuve, au plus grand désespoir de son épouse, Isis. Et Seth se proclame pharaon d'Égypte. Mais cet état de fait n'est pas reconnu par l'Énéade divine. Seth, certes, prend le pouvoir comme un tyran, mais il n'est pas reconnu comme légitime auprès des autres. Donc, à ce stade de l'histoire, Osiris est mort, il dérive sur le fleuve, on va voir l'histoire avec Isis par la suite, mais pour le moment se pose la question de la suzeraineté de l'Égypte, puisque qui va pouvoir succéder à Osiris? Eh bien, à ce stade de l'histoire, il n'y a que deux prétendants, soit Seth, meurtrier d'Osiris, ou Horus l'Ancien. Et évidemment, Horus l'Ancien n'a pas spécifiquement la volonté d'aspirer au trône, mais Seth, à ce stade, le suspecte de vouloir quand même le faire. Alors c'est ainsi qu'il va se déguiser en une sorte de cochon, il va s'approcher d'Horus l'Ancien, et au moment où l'autre ne se méfie pas, il va lui décocher un violent coup de patte dans l'œil, et ce qui va donc lui crever un œil. Donc Horus l'Ancien est blessé, il n'est plus dans son intégralité physique, et c'est là que va intervenir le dieu Thoth. Le dieu Thoth va soigner l'œil d'Horus l'Ancien en lui créant une sorte d'œil artificiel qui s'appelle le Wadjet. Mais en réalité, le Wadjet est une divinité qui existait, c'est donc la déesse Cobra, existait déjà depuis les temps pré-dynastiques. Donc l'œil d'Horus matérialise, enfin l'œil d'Horus, le Wadjet, conçu magiquement par Thoth et donné à Horus l'Ancien en remplacement de son œil perdu, est en réalité une manifestation divine d'un pouvoir magique. Et ça, c'est très très important. D'où le principe du dieu de sagesse, qui possède un regard sur le monde réel, mais également un regard sur le monde invisible via la magie de Thoth. Et Horus l'Ancien sera toujours dans une situation un petit peu d'arbitre des situations futures. Alors, Seth continue ses malveillances afin de s'attribuer le trône de l'Égypte, mais pendant ce temps, la déesse Isis pleure son défunt mari et décide de partir à sa recherche. Alors, très rapidement, hein, puisque j'ai déjà fait des vidéos dans le secteur, elle retrouve le sarcophage d'Osiris qui a dérivé jusqu'à Byblos, elle négocie avec le roi de la ville de Byblos, ce qui atteste encore une fois des relations entre l'Égypte et la ville des cités à cette époque, elle récupère le sarcophage d'Osiris et décide de le ramener à la vie. Donc elle commence à préparer une célébration assistée de sa sœur Nephthys et du dieu Thoth ainsi que du dieu Anubis. Sauf que malheureusement, Seth, dans sa malveillance, a connaissance des manigances d'Isis et décide d'en finir définitivement avec Osiris. Donc il retrouve le cadavre d'Osiris, réussit à duper la surveillance des autres dieux et découpe son corps en 14 morceaux et les répand un petit peu partout dans l'Égypte. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des temples dédiés à Osiris un petit peu partout en Égypte qui auraient soi-disant été un des lieux où un des morceaux du corps divin d'Osiris se serait trouvé. Donc, et le dernier morceau, le phallus en l'occurrence, sera jeté dans le Nil et sera dévoré par un poisson, ce qui fait qu'il ne sera pas retrouvé. Isis n'abandonne pas, elle recherche les morceaux perdus, enfin les morceaux du corps de son défunt mari, réussit à les retrouver tous les uns après les autres, les rassemble en un seul endroit, les recolle, si on peut dire, avec l'assistance du dieu Anubis, et s'apprête à exécuter les rites de momification. Mais le dieu Seth n'a pas dit son dernier mot, il se transforme en léopard, et va tenter d'attaquer une nouvelle fois le corps d'Osiris. Mais cette fois-ci, le dieu Anubis ne se fait pas prendre une seconde fois, et va démasquer le dieu Seth, et va le blesser avec une sorte de tison enflammée, ce qui explique pourquoi le léopard a une peau tachetée et tigrée. C'est la marque du tison faite par Anubis. Donc le dieu Seth s'enfuit, il n'a pas réussi à attaquer une troisième fois le corps d'Osiris. Donc la déesse Isis, aidée du dieu Anubis, va accomplir les rites mortuaires, donc inventer le rite de momification, afin de préserver l'intégrité physique du corps d'Osiris. Et c'est là qu'on dit qu'il a ressuscité. Mais il faut bien comprendre, contrairement aux idées reçues, que Osiris ne ressuscite pas physiquement. Il ne ressuscite pas dans son corps matériel. C'est son intégrité physique, son déjet de son corps, qui est préservé, et cela va permettre à son ka, son double divin, d'accomplir son voyage dans l'au-delà. Donc, en gros, il ressuscite sur un plan spirituel et non pas physique. Et ça, c'est très important. Et c'est à ce moment-là que Isis va s'unir avec son frère Osiris afin de donner naissance à Horus. Mais comprenez bien qu'elle ne s'unit pas physiquement à Osiris, mais s'unit spirituellement à Osiris. Donc, c'est l'esprit d'Osiris, le bas, qui s'unit avec l'esprit d'Isis, le bas d'Isis. Et cela permet de féconder la déesse et de donner naissance à Horus. Donc Horus est un petit enfant, mais évidemment, dans un premier temps, on cache son existence afin qu'il ne soit pas attaqué par Seth, parce que Seth pourrait voir en Horus un candidat sérieux à la succession d'Osiris, et donc pourrait vouloir s'en débarrasser. Donc dans un premier temps, Isis cache Horus dans les marais, le protège, etc., l'enveloppe de son voile magique, si l'on peut dire, puisque Isis est la déesse de la magie, et le dissimule à la surveillance de Seth. Malheureusement, certains des sbires de Seth auront connaissance de la naissance d'Horus, et vont en informer le dieu du désert. Seth, bien évidemment, voit la menace et décide de se débarrasser de l'enfant. C'est ainsi qu'il se déguise en une sorte de scorpion et va réussir à s'approcher du berceau d'Horus et va le blesser mortellement. Mais il avait préparé une sorte de poison physique et magique, dans le but qu'aucun remède ne puisse sauver l'enfant, donc lui accorder une fin définitive, si l'on peut dire. Évidemment, Isis voit l'acte trop tard, elle n'a pu protéger son fils, et se lamente, et en appelle à tous ses pouvoirs magiques afin de soigner l'enfant. Mais rien n'y fait. Le poison semble indestructible, incurable, et Horus est condamné à une mort certaine. Alors, Isis en appelle à toutes les divinités de l'Énéade et toutes les autres d'ailleurs afin de trouver un remède au poison, à la malédiction de Seth. Mais aucune des divinités de l'Énéade n'a de solution à lui apporter pour soigner son fils. Elle en appelle évidemment au dieu Thoth, dieu suprême, dieu quasi démurgique, Encore une fois, je vous rappelle la différence, il est démiurgique dans la cosmogonie de l'Ogdoad, d'Hermopolis, mais il n'est pas le démiurge, il n'est qu'une des manifestations de Ra dans la cosmogonie d'Héliopolis. Et c'est ça qu'on va voir d'ailleurs une différence intéressante par la suite. Donc, Thoth lui-même, avec toute la connaissance magique, est incapable de soigner Horus. Mais néanmoins, ayant la préscience, il lui révèle qu'il n'existe qu'une seule chose dans l'univers qui pourrait soigner Horus. Et il s'agit ni plus ni moins que du pouvoir de Ra. Donc Ra en tant que démiurge suprême. Isis, bien évidemment, décide à ce stade de demander directement à Ra. Mais Ra, ne voulant pas interférer dans la succession entre Horus et Seth pour la succession d'Osiris, ne souhaite pas soigner Horus, définissant que c'est le destin pour lui de mourir maintenant. Mais Isis n'a pas dit son dernier mot. Elle se lamente et hurle à la création entière qu'elle préférera sacrifier la création de l'univers plutôt que de laisser mourir son fils. C'est ainsi qu'elle prépare un stratagème. Lors du prochain combat de la Barque du Soleil, Ra s'apprête une nouvelle fois à affronter le serpent du chaos Apophis. Mais au moment où le serpent du chaos attaque, Isis utilise sa magie pour affaiblir la Barque du Soleil, augmenter la puissance du serpent du chaos, et le serpent Apophis réussit à blesser dangereusement le dieu Ra et l'infecter de son poison lors de cet événement. Ra se retrouve dans une situation particulièrement délicate, il a réussi à repousser le serpent du chaos, mais il sait que le combat recommencera la nuit suivante, et malheureusement, il n'est pas en état de combattre. Il doit absolument se soigner pour pouvoir combattre de nouveau et protéger la création. Il en appelle lui-même à tous les dieux de l'Énéade, mais rien n'y fait. Aucun des dieux de l'Énéade n'est en capacité de soigner le dieu Ra. Isis se présente également, fait ses quelques tours de magie et se trouve également elle-même impossible dans l'incapacité de soigner le dieu Ra. Mais elle glisse subtilement à l'oreille de Ra qu'il existerait bien une méthode pour le soigner. Il suffirait que Ra lui révèle son nom secret, ce qui permettrait d'utiliser la magie démiurgique pour soigner le démiurge, si l'on peut dire. Ra, évidemment, n'a pas d'autre choix. Il connaît, il comprend la manigance d'Isis, mais néanmoins, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut rester dans cet état, sinon le serpent détruira l'univers. Donc, il révèle son nom secret, son nom caché, son règne, comme on le verra plus tard, à Isis. Isis immédiatement, rapidement, soignera et en profite immédiatement pour soigner son fils. À cet instant, Isis devient toujours la déesse de la magie, mais acquiert elle-même des pouvoirs quasi démiurgiques. Et ça nous renvoie à la cosmogonie de Memphis, encore une fois. D'où les récits divins me semblent prendre des éléments de plusieurs cosmogonies. Alors, Horus va pouvoir combattre le serpent du chaos, mais le problème étant qu'il a perdu une grande partie de son pouvoir, il n'est plus aussi démiurgique qu'avant, si l'on peut dire, et a de grandes difficultés à vaincre le serpent du chaos. Et on pourrait dire que l'eschatologie, l'apocalypse, est pour bientôt, si l'on peut dire, parce que Horus s'affaiblissant de plus en plus et a perdu à ce stade une grande partie de son pouvoir. Mais en tout cas, Isis, quant à elle, a réussi à sauver son fils. Et nous allons pouvoir rentrer dans le récit suivant, à savoir la guerre pour la succession du trône d'Osiris. L'Égypte est toujours dans le chaos, ce qu'on pourrait allégoriquement parler de période intermédiaire, et maintenant il va falloir élire le successeur. Alors bien sûr, Seth revendique la suzeraineté de l'Égypte, mais Horus revendique également la suzeraineté de l'Égypte. Alors pour être exact, l'enterrement d'Osiris avait eu lieu bien des années plus tôt, et Horus n'était pas encore né quand Osiris avait été inhumé. Mais Horus avait participé à l'enterrement de son père et avait proclamé qu'il décidait de revendiquer la succession de son père, alors qu'il n'était pas né. Vous voyez la notion des incohérences. Bref, Horus et Seth commencent leur conflit. Pareil, je vous ai proposé une vidéo sur le sujet, donc je vais développer assez rapidement. Le conflit a lieu pendant longtemps, il y a tout un tas d'épreuves, et il y a un arbitrage de l'Énéade divine afin de désigner le successeur. Personne n'est d'accord, et au fur et à mesure du temps, on demande à Ra de donner son point de vue. Ra ne prend pas officiellement parti, mais suite aux différentes manigances de Seth, l'Énéade divine se range du côté d'Horus et décide de désigner Horus comme successeur d'Osiris. Mais Ra oppose son veto. Il doit y avoir un combat entre les deux. Les épreuves auront lieu, ne définissant pas le gagnant, le perdant, etc. Tout ça. Il y a des coups fourbes des deux côtés, des malveillances des deux côtés, etc. Arrive un moment, l'Énéade divine n'en peut plus. Aucun des deux camps n'est départagé. et l'Énéade est du côté d'Horus. Elle décide de demander conseil directement à Atum. Alors, comprenez, Ra lui-même est une manifestation d'Atum. Ra est un partisan de Seth, non officiellement, mais quand même un partisan de Seth, puisqu'il met son veto sur l'accession d'Horus au trône. Donc l'Énéade convoque Atum, et Atum s'en mêle pas trop, il reste neutre dans cette histoire, mais finit globalement par dire « ma préférence va à Horus ». L'Énéade va voir Ra et dit « bah voilà, même Atum est d'accord avec nous ». Mais Ra impose son veto, non non, il y aura une épreuve contre Seth. Bon, l'épreuve a lieu, elle ne départage personne, encore une fois, et l'Énéade divine décide d'aller voir Neith. Pourquoi ils vont voir Neith? Parce qu'elle est la mère de la création. La mère à la fois d'Atum, mais également de Ra et de tout le monde. Alors c'est là qu'on voit que c'est pas cohérent par rapport à la cosmogonie d'Héliopolis, puisque Neith est la mère de création dans la cosmogonie d'Esna. Alors Neith dit clairement que Horus est le plus digne d'accéder au trône, voilà, mais Ra oppose encore une fois son veto. Finalement, c'est Thoth qui va intervenir. Thoth va faire un petit tour dans les enfers, enfin dans le monde des morts, et il va prévenir Osiris de la situation. Alors Osiris, qui entre-temps était devenu le juge des morts, le dieu du monde souterrain, donc le dieu du monde chthonien, et là, on va voir une chose intéressante. Osiris est représenté à la peau verte. Verte, puisqu'il est le dieu du monde souterrain. Mais ce qui, du coup, nous fait penser au dieu Ptah, le dieu de Memphis, le grand démiurge chthonien de la cosmogonie de Memphis. Donc ce qui nous amène à penser qu'il y a une quelconque relation et qu'on a attribué à Osiris les pouvoirs démiurgiques du Ptah. Ça c'est une théorie personnelle, mais je le pense. Alors du coup, Osiris prend conscience qu'on n'accorde pas à son fils sa succession. Il envoie des messagers à l'Énéade divine, à Ra, à Atum, à Neith, à tout le monde, et il leur dit, c'est très simple, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous inférieurs à moi. C'est très simple, je détiens les clés du royaume des morts, et si demain je le décide, je libérerai les légions démoniaques, les légions des morts et de tout ce qui se trouve dans le monde du dessous, sur Terre. Donc soit vous accordez la souveraineté à mon fils, soit c'en est fini de vous tous. Et là, ça nous met face à une situation très intéressante, c'est que Osiris matérialise à cet instant sa toute puissance, même face à Ra, même face à Atum, et même face à Neith. Donc c'est là qu'on se trouve encore une fois avec une symbolique pour moi, et c'est une théorie personnelle de la cosmogonie de Memphis, on voit que Osiris, qui est ni plus ni moins que la manifestation du Ptah, reprend son rôle démiurgique toctonien antérieur à toutes les autres divinités. Donc on voit que ces récits divins sont également un combat entre les différentes cosmogonies, à mon sens. Donc, dans tous les cas, le chantage d'Osiris fonctionne, et Horus accède à la suzeraineté de l'Égypte. Seth est banni dans le désert, il est condamné à 1000 tourments, il est malmené par les autres dieux, etc. Mais Seth, Ra, qui a toujours eu une préférence pour le dieu Seth, décide de le sauver, plus ou moins, et de lui accorder un poste de prestige, puisque à partir de maintenant, Seth deviendra le défenseur de la barque du soleil avec le sceptre de Ra. Donc Ra étant devenu trop faible pour affronter le serpent du chaos tous les jours, c'est le dieu Seth qui aura pour mission, assisté de la déesse Bastet et de quelques autres divinités, bien sûr, de repousser le serpent du chaos pour l'éternité. Donc là, on voit qu'on est dans une construction où l'ordre du monde doit être préservé par une organisation, divine, duquel va participer Seth, duquel va participer Bastet et d'autres divinités. Donc le combat cosmique a lieu avec Seth comme champion, et le combat terrestre, si l'on peut dire, a lieu avec Horus en tant que suzerain de l'Égypte. Par la suite, le dieu Horus, qui possède la couronne de Ra de Sobek, bien sûr, règne sur l'Égypte pendant des temps immémoriaux, et ensuite, accéder lui-même au monde de l'Énéade, il va quitter le monde terrestre, si l'on peut dire, pour rejoindre Geb, Chou et d'autres, pas Osiris, puisque Osiris est dans le monde chthonien, et il va laisser la suzeraineté de l'Égypte aux hommes, au pharaon. Et c'est ainsi que le pharaon se retrouve être le souverain temporel de l'Égypte, mais en lui va s'incarner le Ba, c'est-à-dire l'esprit d'Horus. Donc, le pharaon est symboliquement le fils du soleil, puisque symboliquement, Horus est symboliquement le fils du soleil, lui aussi. Il est le fils physique de Osiris, mais etc. par lignée, il est symboliquement le réceptacle du pouvoir de Ra. Donc le pharaon est un être divin en Égypte, tout simplement parce qu'il possède en lui l'esprit de la divinité. Voilà, ce qui explique que le pharaon est l'intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des dieux. Et maintenant, nous allons parler un petit peu des allégories historiques qui se cachent dans ces récits divins. Je vous rappelle encore une fois qu'il ne faut jamais prendre la mythologie pour argent comptant. C'est avant tout des récits cosmogoniques tentant d'expliquer plus ou moins bien la création de l'univers et l'explication de tous les phénomènes observables. Cependant, la mythologie, parfois, recèle en elle quelques éléments allégoriques traduisant des événements historiques lointains, qui ne doivent pas être pris au plus premier degré, mais qui, encore une fois, peuvent représenter un souvenir mis sous une forme mythologique comme un passé glorieux ou un mythe fondateur. Et analysons quelques-uns de ces mythes dans l'Égypte. Tout d'abord, l'histoire de la suzeraineté. Ra, le démiurge, est le souverain du monde. Mais lorsqu'il doit s'occuper de son combat sur la barque du soleil, il doit laisser sa souveraineté à Chou, tout d'abord. Or, Chou, qu'est-ce que c'est ? Il règne sur le monde, sur l'Égypte symboliquement, mais une époque où l'Égypte n'existe pas. Il n'y a pas d'unité égyptienne. C'est le peuple avec les forces du chaos autour d'elle qui combattent. Donc on pourrait dire allégoriquement que Chou représente ce qu'on pourrait appeler le premier âge de l'humanité. Mais si on va un petit peu plus loin, on arrive au règne de Geb. Geb, lui, il crée l'organisation, il crée l'armée, il crée les prêtres et il affronte les barbares. C'est le peuple dit civilisé contre les peuples barbares. Et pour ma part, il s'agit d'une habile allégorie pour parler de cette époque pré-dynastique, avant la période timide, au moment où l'Égypte est en train de se construire en tant qu'unité politique et se trouve menacée en permanence par les groupes semi-nomades à l'est, à l'ouest et au sud, qui tentent de perturber sa gestation en tant que civilisation. C'est la deuxième phase. Puis ensuite, on passe au règne d'Osiris. Or, dans la mythologie égyptienne, ce n'est pas Chou, ce n'est pas Geb qui apporte l'agriculture et la sédentarisation à l'Égypte, c'est Osiris. Osiris est le dieu qui matérialise la civilisation et qui symboliquement crée l'union entre la haute et la basse Égypte. On pourrait allégoriquement considérer que Osiris représente le premier pharaon, le premier souverain de l'Égypte en tant que civilisation. Or, revenons un petit peu sur la contextualisation historique. La création de l'Égypte en tant qu'unité politique s'est créée sensiblement entre 3100 et 3150 avant Jésus-Christ, avec le premier pharaon qui s'appelle Ménès ou Narmer. Or, il se trouve que le dieu Osiris n'apparaît dans les mythes égyptiens que pendant la période de l'Ancien Empire, c'est-à-dire entre 2002 et 2003 avant Jésus-Christ. Or, il est intéressant que le règne du premier pharaon d'Égypte a eu lieu environ 600 à 700 ans avant que Osiris existe en tant que divinité. Et or, il est intéressant de voir que même pendant la période antique, et encore aujourd'hui par certains spécialistes, considèrent que Osiris est une allégorie, une transformation mythologique en du personnage du premier pharaon Ménès Narmer, qui prend le vocable d'Osiris et qui devient symboliquement le dieu civilisateur unificateur de la haute et de la basse Égypte. Donc peut-être qu'un homme unificateur de l'Égypte s'est retrouvé déifié par le temps, prenant le nom d'une figure divine pour s'intégrer dans ce schéma cosmologique du premier âge de Chou, période proto-historique, du deuxième âge de Geb, période proto-civilisationnelle de la période pré-dynastique, et le troisième âge, celui d'Osiris, l'établissement de la civilisation Égypte en tant que pouvoir temporel à la période Tinite. De là vient ensuite le règne d'Horus, qui succède au dieu civilisateur. Il est le pharaon guerrier, le pharaon combattant. Or, ce qui est intéressant, c'est que Horus apparaît depuis les temps les plus anciens dans la mythologie égyptienne. Or, on retrouve des pharaons, les premiers pharaons, qui porteront le nom d'Horus. Hora, qui veut dire l'Horus l'ancien, etc. Tout ça. Donc, le fait que des pharaons se soient appelés Horus dans les temps de la période Tinite est intéressant sur le plan que, à cette époque, le dieu Horus lui-même n'est pas le fils d'Osiris, puisqu'Osiris n'existe pas. Horus devient le fils d'Osiris seulement pendant la période du Moyen Empire, ou éventuellement de la fin de l'Ancien Empire. Et il est intéressant de considérer que le pharaon Hora, premier, était le fils du pharaon Ménès, premier souverain unificateur de l'Égypte. Donc je pense qu'on est sur une habile allégorie de transformation, Il ne s'agit pas de dire qu'Horus, en tant que dieu, existait. Il s'agit simplement de montrer qu'une histoire ancienne de succession de civilisations a pu se transformer en récit divin en tant que mythe fondateur et s'inclure dans un schéma cosmogonique. Donc, quand on dit que les pharaons, les souverains d'Égypte, sont les successeurs du pharaon divin qu'était Horus, eh bien, ça prend un sens, puisque tous les pharaons sont les successeurs des pharaons de la période tinite, etc., etc. Donc, je pense que nous sommes sur des habiles constructions allégoriques d'événements historiques qui sont devenus mythiques, légendaires, et sont devenus des mythes fondateurs cosmogoniques, encore une fois. Alors, on retrouve un autre élément intéressant avec le récit de Yam. Alors, Yam, c'est quoi? C'est une divinité proche orientale qui s'appelle le dieu de la mer. Donc, le dieu de la mer, donc du panthéon cananéen, peut-on dire, dans les légendes du Nouvel Empire, environ vers 1100 avant Jésus-Christ, seront édifiés des textes qui vont présenter une invasion de l'Égypte par un dieu étranger, le dieu Yam. Le dieu Yam, le fléau des mers, attaque l'Égypte et est en train de soumettre les dieux égyptiens à son pouvoir. Or, les dieux égyptiens de l'Énéade vont tenter d'apaiser le dieu Yam en le mariant avec une déesse étrangère. Mais une déesse étrangère qui appartient au panthéon égyptien, à savoir la déesse Astarté. Comment ça se passe cette histoire? Eh bien, c'est très simple. L'Égypte du Nouvel Empire conquiert des territoires, et notamment conquiert le Proche-Orient. Or, Astarté est une déesse cananéenne, phénicienne si vous préférez. C'est une déesse cananéenne. Mais vu que l'Égypte contrôle le territoire cananéen, eh bien, la divinité locale interagit avec le panthéon égyptien. Donc, lors de l'attaque du dieu Yam, le fléau des mers, le panthéon divin égyptien tente de marier le dieu Yam avec, en lui offrant un lourd tribut, de marier le dieu Yam avec la déesse Astarté, afin que ce dernier soit apaisé, et de l'unir symboliquement à l'Égypte. Or, cela n'arrête pas les malveillances du dieu Yam qui continue d'attaquer le territoire égyptien. Or, le panthéon divin égyptien, enfin les dieux égyptiens, vont tenter de s'opposer une dernière fois au dieu Yam, et pour cela, ils vont appeler un champion. Ce champion, ce n'est pas Horus, le dieu régnant, symboliquement, puisque le pharaon est censé être la matérialisation temporelle d'Horus. Non, non, ils vont appeler le dieu Seth, le dieu du désert, puisque c'est le grand combattant. Et le dieu Seth va combattre le dieu Yam, le fléau des mers, et le repousser. Si on fait un parallèle allégorique historique, il est intéressant de constater qu'au XIIe et XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu en Égypte ce qu'on appelle les invasions des peuples de la mer. Un fléau des mers, matérialisé mythologiquement par le dieu Yam. Et l'Égypte, dans un premier temps, va se faire piller, les villes seront détruites, le delta du Nil sera à feu et à sang. L'Égypte perd et doit se soumettre aux tribus. Or, à cet instant, le fait d'appeler le dieu Seth pour combattre le fléau des mers, ça c'est intéressant parce que le pouvoir temporel égyptien n'arrive pas à combattre. Or, il se trouve que Ramsès III, pharaon qui a combattu les peuples de la mer, va militariser lourdement l'Égypte et notamment en appeler au peuple berbère, au peuple libyen comme on les appelait à l'époque. Et il y a énormément de Libyens qui vont intégrer l'armée égyptienne. Et les Libyens, enfin l'armée égyptienne composée de Libyens, va réussir à repousser les peuples de la mer, mais dans les années qui suivent, il y avoir un renversement du pouvoir en Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte du Nouvel Empire va sombrer dans la troisième période intermédiaire, et les populations berbères vont prendre le pouvoir pendant une courte période sur l'Égypte. Ce qui matérialise symboliquement, les peuples berbères sont des peuples du désert, donc tutélaires du dieu Seth. Allégoriquement, le pharaon en place, matérialisation d'Horus, n'arrive pas à repousser le pouvoir de la mer. C'est donc les peuples du désert, matérialisation du dieu Seth, qui arrivent à repousser le dieu de la mer, mais provoquent un coup d'état, et Seth prend le pouvoir en Égypte. C'est la troisième période intermédiaire. Donc on est en permanence sur ça avec la mythologie. Il ne s'agit pas de lire littéralement, il s'agit de montrer que les mythes parfois véhiculent une allégorie sur des événements historiques X ou Y. Nous voici maintenant à la troisième partie de cette émission, où nous allons aborder les croyances et la religion des anciens Égyptiens. Nous parlerons dans un premier temps de la littérature égyptienne. Quelles sont les sources concrètes qui nous informent sur la mythologie et les croyances des peuples de l'Antiquité égyptienne? Ensuite, nous parlerons des rites funéraires et notamment de la momification, comment cela fonctionne concrètement et quel était le but. Ensuite, nous parlerons de la difficile question de la composition de l'être, c'est-à-dire de l'individu. Pour prendre un exemple, chez les Grecs, un individu était composé, dans la mystique platonicienne, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Eh bien, chez les Égyptiens, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'une certaine façon, c'est beaucoup plus complexe tout en étant beaucoup moins précis. Ensuite, nous parlerons du voyage vers l'au-delà et le jugement des âmes, ou si vous préférez, le tribunal d'Osiris et la vision de la vie d'après dans la pensée égyptienne. Et nous terminerons avec quelques mots sur le clergé égyptien, l'organisation religieuse de l'Égypte antique. Alors, passons directement à cette première phase, à savoir les textes. Eh bien, les plus anciens textes à caractère religieux et donc mythologique se trouvent dans les pyramides. Alors, dans les pyramides, nous ne parlons pas des pyramides du plateau de Gizeh, nous parlons de certaines pyramides un petit peu plus récentes, notamment la pyramide d'Ounas, qui est la plus ancienne et qui possède ce type de texte. Par coutumance, on les appelle les textes des pyramides. Alors, qu'est-ce que nous disent ces textes? Eh bien, c'est très simple, c'est des sortes de prières religieuses qui ont pour but d'accompagner le défunt dans son voyage dans l'au-delà. Donc, le but étant de le mettre sous la protection de certaines divinités, comme par exemple Amon, éventuellement Osiris ou encore Ra, et d'autres dieux plus spécifiques, comme par exemple Anubis, qui est le guide des morts dans l'au-delà. Donc, ces textes des pyramides ont surtout un intérêt, c'est qu'ils sont l'ancêtre le plus lointain du fameux livre des morts égyptien, qui n'existe pas, encore une fois, à l'époque de l'Ancien Empire, et paradoxalement, ce sont les premiers textes à caractère religieux de l'Égypte. Donc, ils nous livrent les informations sur l'existence dans les croyances égyptiennes de certaines divinités et la non-existence de d'autres. Alors, non-existence, peut-être qu'ils existaient, mais du moins, nous n'avons pas trace de la révélation envers certaines divinités, tout simplement. Ensuite, nous passons au Moyen-Empire avec les textes des sarcophages, donc des sarcophages de pierre, de bois ou autres, hein, bien sûr, où étaient disposés les mêmes textes sensiblement que les textes des pyramides, mais cette fois-ci sur les sarcophages. Il y avait plusieurs avantages. Alors, nous retrouvons sensiblement les mêmes prières hein, dans le but d'accompagner les défunts dans l'au-delà, mais en plus de cela, ils sont plus légers et plus facilement accessibles. C'est-à-dire que, évidemment, un texte des pyramides bâti dans le monument nécessite que la tombe soit pour un pharaon ou pour une personnage de rang royal. Or, les textes des sarcophages ouvrent les rites funéraires à d'autres personnages du commun. Alors, du commun, comprenez, on parle quand même des grands bourgeois ou de la haute société, ceux qui pouvaient se permettre de s'offrir les services des scribes et des prêtres qui avaient les compétences pour rédiger ces formules à caractère magique. Alors, magique, comprenez, magico-religieuse. Hein. Bien sûr, à l'époque, la magie et la religion ne sont pas fondamentalement séparées, si je puis dire. Alors, touchons un point, notamment par rapport à ces rites. Dans les textes des pyramides, la forme même pyramidale est intéressante parce qu'elle provoque cette idée de l'ascension. Je vous rappelle que nous sommes sur une base carrée qui s'élève vers le ciel en un point unique. Et c'est symboliquement le chemin mystique de l'âme du défunt qui s'élève vers le ciel, qui s'élève vers l'énéade divine et donc qui peut rejoindre le panthéon des divinités pour l'immortalité. Alors que lorsque nous entrons dans la culture des sarcophages, et plus tard de la vallée des rois, nous enfouissons le corps sous terre, donc dans un hypogée. On creuse sous la terre et donc on met le corps en relation avec les forces chtoniennes de la terre pour qu'il accomplisse son voyage, mais dans l'au-delà, dans le monde souterrain. Alors, la différence est fondamentale. Dans la période de l'Ancien Empire, on peut considérer que l'idée du voyage du ka dans le monde des morts n'est pas aussi complexe que lors du Moyen ou du Nouvel Empire. Dans l'idée d'une pyramide, il y a une ascension vers le haut, alors qu'inversement, au Moyen-Empire ou au Nouvel-Empire, avec ses hypogées, on fait un voyage souterrain, donc archétype du monde des morts, avec des épreuves, des difficultés, puis un jugement. Donc la notion du tribunal d'Osiris n'existe pas forcément, et c'est même relativement peu probable, dans la période de l'Ancien Empire. C'est probablement le mythe osirien, si l'on peut dire, va probablement apparaître à la fin toute fin du Moyen de l'Ancien Empire, voire même au Moyen Empire. Alors plus tard, au Nouvel Empire cette fois-ci, donc à peu près à 1600 avant Jésus-Christ, nous avons l'apparition du Livre des Morts. Alors là, c'est intéressant parce que on reprend le cheminement du texte des pyramides et du texte des sarcophages, mais cette fois-ci en beaucoup plus complexe. Évidemment, le texte est gravé sur papyrus, ce qui permet d'avoir de nombreuses formules, de nombreuses prières, de nombreuses indications pour le voyage de l'âme. Alors, les livres des morts apparaissent sensiblement, comme je vous l'ai dit, au Nouvel Empire, et vont perdurer jusqu'à une époque relativement récente, hein, l'époque de la domination grecque sur l'Égypte. Donc, on retrouve les mêmes idées, si ce n'est que cette fois-ci, on va retrouver vraiment tout le cheminement de ce voyage aux enfers que nous allons étudier par la suite. Alors, les livres des morts étaient disposés dans la tombe des pharaons, dans la tombe des notables, de l'aristocratie, mais également dans la tombe des bourgeois. Les gens du commun pouvaient, sous réserve qu'ils disposent des moyens financiers pour s'offrir un livre des morts, ils pouvaient assurer leur survivance dans la vie d'après via ce texte sacré. Donc, c'est un texte religieux, mais c'est un texte magique, encore une fois, puisqu'il contient toutes les clés qui vont permettre à l'individu, ou du moins son double spirituel, le cas, d'accomplir son voyage dans de bonnes conditions pour la vie d'après. Et ça, c'était fondamental. La civilisation égyptienne vit dans l'obsession de la mort. La vie n'était que de petite importance, si l'on peut dire, par rapport à la perspective de cette éternité sans fin dans le monde d'après. Néanmoins, la vie est capitale, puisqu'il faut respecter certaines règles de vie pour pouvoir accéder à la contemplation dans la vie d'après. Et ça, c'est très important, c'est ce qui s'appelle la loi de Maat, dont nous allons toucher également quelques mots. Alors là, vous avez d'autres livres hein, qui sont non pas le livre des morts, mais qui sont de livres annexes, peut-on dire, livres du monde souterrain. Alors il en existe de nombreux, hein. Il existe cinq ou six formes de ce livre. Alors, livres du monde souterrain, ce sont des livres qui tentent de présenter, sous un aspect magico-religieux, encore une fois, ce qui se passe dans le monde d'après, qui exposent les récits divins. Donc les fameux archétypes hein, du récit divin que nous avons vu tout à l'heure et qu'il expose comme des modèles. C'est-à-dire que le vol du nom de Ra par Isis est avant tout un concept philosophico-magique qui a pour but, pour les praticiens de la magie en Égypte antique, de procéder à des rituels qu'on pourrait dire d'envoûtement ou de malédiction. Le but étant de s'approprier le nom secret d'une personne pour détenir un pouvoir. Et dans un cadre plus de haute magie, si l'on peut dire, ça s'octroyait la connaissance du nom d'une divinité dans le but d'accomplir des merveilles et des miracles. Donc tous ces textes magico-religieux ont un aspect ésotérique, peut-on dire, encore une fois. Même si on ne peut pas parler de culte à mystère au sens grec du terme. Et on touchera un mot sur ce sujet par la suite. Alors, passons maintenant aux rites funéraires. Alors, les rites funéraires, ils apparaissent quand et à quoi ils servent? Alors, tout d'abord, ils apparaissent au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. La plus ancienne momie royale a été retrouvée avec celle de Mérénée Ier en 2250 avant Jésus-Christ, soit la toute fin de l'Ancien Empire. Alors, c'est pareil, contrairement à certaines idées reçues, la momification en Égypte n'existait pas pendant la période pré-dynastique ou encore pendant la période tinnite. Elle apparaît pendant l'Ancien Empire, ou du moins à la fin de l'Ancien Empire. Alors, c'est pareil, ce n'est pas parce que la plus vieille retrouvée date d'une certaine époque que cela n'existait pas relativement avant, mais néanmoins, sans éléments, on ne peut pas l'attester. Donc, le fait de ne pas retrouver de momies des plus anciens pharaons des dynasties égyptiennes est tout à fait pertinent, puisque l'art de la momification n'existait pas, tout simplement. Donc, il faut aussi prendre en compte que les premières momies, comme celle de Mérenre, ne sont pas identiques aux momies de Ramsès II du Nouvel Empire. L'art s'est perfectionné, les techniques se sont développées, et les procédés ne sont pas les mêmes. Et l'état de conservation d'une momie de l'Ancien Empire n'est pas du tout le même qu'une momie du Nouvel Empire, dû à la chronologie déjà, mais en plus parce que les procédés sont beaucoup moins efficaces pendant l'Ancien Empire. Alors, l'éviscération, donc c'est-à-dire le fait de retirer les organes, devient habituel sous la 12e dynastie, comprenée pendant le Moyen Empire, avec présence des vases canopes. Alors, chaque vase contient un organe spécifique et correspond à un point cardinal ou une entité. Ils sont au nombre de 4, Amset, Api, Douamoutef et Kebesnouf, je n'arrive pas à le prononcer. Donc ces cases vascanopes recueillent les organes du corps qui doivent être préservés, qui sont essentiels pour assurer le voyage dans la vie d'après. Donc on peut dire qu'à ce stade au Moyen-Empire, la momification est déjà relativement perfectionnée. Donc l'art atteint sa technique maximale pendant le Nouvel Empire. C'est l'entrée du défunt dans le Wabep, qui marquait pour la famille le début d'une période de 70 jours de deuil, marqué par un jeûne. Le premier jour, c'était l'abdomen du mort qui était incisé au flanc gauche pour permettre à son bas, donc son esprit si vous préférez, de monter au ciel. Alors ces simplifications âme-esprit que j'utilise pour le moment vont se complexifier un petit peu par la suite, vous le verrez. Donc, la momification telle qu'on l'entend et telle qu'on peut la trouver partout sur Internet, encore une fois, est celle qui est présente au Nouvel Empire. Mais en réalité, c'est un long processus de maturation. Les Égyptiens ne sont pas réveillés un matin avec toutes les techniques de momification comme une révélation divine. C'est un procédé qui s'est amélioré, qui s'est perfectionné avec des tests. Donc, les vases canopes, hein, encore une fois, représentant les quatre éléments, etc. Tout ça, vous avez bien compris la symbolique. Alors, les procédés de momification... Quel est le but ? Alors le but était de préserver l'aspect extérieur du corps pour le maintenir. C'est-à-dire que l'intérieur du corps était viscéré, donc on retirait les organes, on asséchait avec différentes méthodes, du sel, des encens, des herbes et tout un tas de choses qui avaient pour but d'éliminer tous les liquides du corps. Il faut préciser également qu'on retirait le cerveau, alors par le nez, je sais c'est pas très ragoûtant, mais on retirait tous les morceaux du cerveau progressivement en curant, si on veut dire, par le nez vulgairement. Donc on retirait tout ce qui était interne au corps et qui avait une connotation le liquide. Le but était d'assécher totalement afin d'éviter la décomposition et le pourrissement. Ensuite, le corps était huilé de nombreuses substances, de diverses épices, d'huile, etc. Puis ensuite, il était séché, puis bandé afin que son corps puisse reposer pour l'éternité. Et on voit que le procédé est d'une haute efficacité, puisque certaines momies, comme celle de Ramsès II, sont encore dans un état de conservation particulièrement édifiant, et même à l'époque actuelle. Une momie qui, rappelons-le, date sensiblement de 1003-1004, enfin 13e siècle avant Jésus-Christ, donc une momie qui a plus de 3200 ans, et qui est dans un état de conservation particulièrement... particulièrement bon, si l'on peut dire. Et c'est également le cas de nombreuses autres momies. Certains n'ont pas survécu aux ravages du temps, mais cela peut être dû à des profanations, des ravages du temps dans certains cas, le lieu géographique qui a pu jouer évidemment dans la conservation, mais ils ne doutent pas que les Égyptiens furent le peuple le plus compétent dans l'art de la momification. Alors, vous allez me dire, si le but est d'accomplir le voyage de l'âme dans la vie d'après, quel est l'intérêt de préserver l'intégralité du corps physique ? Eh bien, cela va prendre tout son sens par rapport aux notations, aux éléments de la composition de l'être. Hein. Donc on va expliquer un petit peu tout ça. Le rituel à son état maximum, c'est-à-dire pendant le Nouvel Empire, durait 70 jours. Ce n'est pas du tout un rituel qui s'accomplit en deux journées, trois mouvements, comme nos rites actuels dans les chambres mortuaires. Ce sont des procédés extrêmement longs de séchage, d'éviscération, etc., de rituels, de prières, puisque tout ceci s'accompagne bien sûr de pratiques religieuses. Il y a des prêtres qui officient afin d'aider le défunt à pouvoir accomplir son voyage, ou du moins le commencer dans de bonnes conditions, avec notamment la libération du bas, qui est l'élément déclencheur de l'acte de momification. Passons maintenant à la composition de l'être. Alors, après la mort, grâce à ses composantes éthérées, l'individu peut espérer une survie posthume dans la tombe et une existence immortelle auprès des puissances surnaturelles qui règlent les phénomènes cosmiques. Encore une fois, rappelons que dans la mystique égyptienne, il y a le monde visible, mais également tout le monde invisible, le monde un peu magique, si l'on peut dire, qui est le lieu de résidence du Ka, du Ba et de tout un tas d'autres éléments. Donc, pour un Égyptien de l'Antiquité, l'existence d'un monde après la vie ne faisait aucun doute. Et encore une fois, les Égyptiens étaient obsédés par la mort, le but étant de préparer, d'avoir une belle mort, si l'on peut dire, afin de s'assurer une éternité positive. Et ça, c'est fantastique. Du coup, la croyance égyptienne est avant tout vecteur d'espoir. Il n'y a pas cette idée nihiliste de fin définitive et de disparition totale. Donc les Égyptiens avaient vraiment cette perspective de la vie d'après, ce qui permettait, sur le plan religieux et philosophique, donc de respecter certains codes moraux qui étaient essentiels pour s'assurer de cette éternité positive. Alors, la conservation du souffle de vie, l'ankh, est cependant conditionné par le respect de la vie durant des principes de Ma, c'est-à-dire vérité, justice, et par la maîtrise efficace de la magie, le Eka. Et ça, c'est fondamental. Pour pouvoir accéder à l'éternité, les rites funéraires et le livre des morts ne suffisent pas. Il faut respecter la loi divine de la vérité, à savoir de Ma. Ensuite, la maîtrise de la magie, le Eka, eh bien, c'est une notion que l'on va étudier juste après. Pour un Égyptien, il était primordial de conserver l'intégrité de l'être après la mort, ce qui explique les rites de momification et de l'ouverture de la bouche effectuée sur le défunt. Pour un Égyptien de l'Antiquité, le fait d'accomplir son voyage dans l'au-delà nécessite quand même que son corps physique soit conservé dans un bon état. Pourquoi ? Parce qu'il est l'image en miroir du Ka. Si le corps est détruit ou altéré, le corps, le double spirituel, sera également altéré. Il y a une sorte d'effet miroir entre le monde invisible et le monde visible, et donc toute dégradation faite au corps pourrait se répercuter sur le double spirituel, le cas. D'où il est important, encore une fois, de s'assurer de la préservation de la dépouille. Alors, ce mythe prend naissance avec, bien sûr, le mythe osirien, qui est le mythe central de la mythologie égyptienne, puisque Osiris obtient l'état de sa résurrection, comme on dit, il ressuscite, mais il ne ressuscite pas physiquement, il est mort. Mais néanmoins, pour que son cas, son double spirituel, soit ressuscité, il faut qu'il soit restauré physiquement, donc que son corps qui avait été coupé en 14 morceaux soit restauré dans son intégrité physique, afin que son cas puisse également être restauré dans son intégrité physique. Donc il y a une vraie conjonction entre le monde réel et le monde spirituel qui doivent jouer l'un sur l'autre en effet miroir. Et ça, c'est fondamental. Ce qui n'est pas présent, par exemple, dans les cultures gréco-romaines. Alors, la composition de l'être. Tout d'abord, répartissons les points les plus simples, et après nous aborderons les versions un peu métaphysiques, si je puis dire, bon, bien qu'on est déjà dans le métaphysique dans cette partie. Mais bon, vous allez comprendre quand on passera à l'autre partie. Alors, si les Grecs et également la plupart des cultures antiques qui ont un héritage grec, séparent l'être en trois parties, c'est-à-dire l'âme, le corps, l'âme et l'esprit, eh bien l'Égyptien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais néanmoins, mettons l'accent sur une difficulté afin d'éviter certains raccourcis et certaines affirmations un peu péremptoires. Tout d'abord, les Égyptiens ne nous ont jamais livré un codex qui exprime clairement les découpages de l'individu. Toutes ces décompositions sont des éléments qui ont été tirés, extirpés par les archéologues et les historiens sur les différents rituels, sur les différents livres appartenant à la mystique égyptienne. Donc, c'est un travail acharné de recherche et de remise en contexte qui permet d'isoler certains éléments qui semblent invariants dans la culture égyptienne, mais néanmoins, avec de sérieux doutes, on ne pourra jamais, à ce stade, affirmer la validité totale de cette décomposition. Alors, la première partie qui ne semble pas faire de doute, c'est le djet. Alors, le djet, c'est quoi? C'est la désignation du corps et ses représentations en images peintes et sculptées. Le djet ne représente pas seulement le corps de l'individu, mais représente également un dessin de lui sur un temple, un dessin de lui sur un papyrus, sur un parchemin ou sur un vase. Le djet, c'est sa représentation, son image figée, si l'on peut dire, que ce soit le corps, encore une fois, ou toutes les autres. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de la mummification, puisqu'il est très important de conserver le djet dans un parfait état, afin que l'image ne soit pas altérée, puisque cela jouerait sur le cas, le double spirituel. Ensuite, on passe justement au ka. Alors le ka est l'énergie vitale, un double spirituel qui naît en même temps que l'humain. C'est le ka qui voyage dans l'au-delà. Donc le ka, pour faire très simple, c'est le double du corps, mais dans l'autre monde. Alors on pourrait dire, si on se livrait à une exagération, on pourrait dire que c'est l'âme, le corps astral du djet. Voilà, pour faire relativement simple, même si en réalité le ka a plus une connotation, encore une fois, d'énergie vitale. Du coup, le ka prend naissance en même temps que le corps, sauf qu'il ne meurt pas en même temps que le corps, sauf si le corps est détruit. Donc ça, c'est important. D'où, pour que le ka soit éternel, il faut que le djet soit éternel, d'où la momification. Donc, on ne peut pas dire que le ka est une exacte définition de l'âme. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si les deux concepts s'en rapprochent. Le ka est plus proche de la notion de corps astral que d'âme au sens judéo-chrétien. Ensuite, il y a le ba, improprement traduit par âme, car ce n'est pas du tout la même chose. Donc le ba est un principe spirituel qui prend son envol à la mort du défunt. C'est la personnalité de l'individu, son unicité, ce qui fait que l'individu est une personne unique qui n'a aucun jumeau. Deux personnes peuvent être des jumeaux au niveau du corps, mais pas au niveau du ba. Alors, le ba pourrait éventuellement être traduit par l'esprit dans une vision grecque. Néanmoins, ceci est encore une fois un petit peu trop simpliste. Le ba, c'est la personnalité propre de l'individu, son unicité, ce qui fait, pourrait-on dire, son caractère, son charisme, ses choix, son être le plus profond, si l'on peut dire d'une certaine façon. Alors, pour nous éclairer un petit peu, il faut comprendre que le Ba est libéré en premier lorsque le défunt meurt, enfin lorsque l'individu devient un défunt, le Ba est libéré en premier. Pourquoi? Parce que le Ba lui-même, il a besoin d'être libre. Il est représenté souvent par un oiseau, une sorte de volatile qui voyage librement. Le Ba est associé au Ka, il fait partie des composantes de cet individu, si ce n'est que le Ka n'est, pourrait-on dire, pas limité par l'espace-temps. D'où, revenons à une notion, quand le pharaon monte sur le trône, on dit que c'est le Ba de la divinité Horus qui s'incarne en lui. Ce n'est pas le Ka d'Horus, ce n'est pas le Jet, ce n'est pas tous les autres éléments, c'est le Ba, qu'on pourrait dire l'esprit qui se manifeste. Donc, la personnalité, comprenez-le, du dieu, s'incarne dans Pharaon, qui fait que Pharaon est le digne successeur direct et même par la pensée et par l'individualité du dieu, si vous voyez l'idée. Donc, on pourrait faire la caricature jet, corps, ka, âme et ba, esprit, mais ceci est une simplification un petit peu trop rapide. Le ka, c'est l'énergie vivile, le double astral. Le ba, c'est la personnalité propre de l'individu, son unicité. Ensuite, nous trouvons le shoot. Alors, le shoot, c'est l'ombre, le vestige du défunt, une sorte de fantôme ou de souvenir. Lorsque le corps meurt, le ka se sépare et va commencer son voyage. Mais au moment de cette séparation, reste un résidu. Ce résidu qui est en fait issu de la séparation du ka avec le corps se nomme le shoot. C'est le vestige, l'empreinte. Et cette empreinte est représentée d'une façon noire, c'est le fantôme. Alors quand les croyances nous racontent un petit peu que les Égyptiens avaient peur du retour des morts, avaient peur que la momie se relève et accomplisse des méfaits, eh bien en fait on parle du shoot. L'idée était que le shoot pouvait posséder le corps pour l'animer de nouveau, ce qui en ferait un revenant, vulgairement. Mais c'est un vestige, ce n'est pas la personne. La personne, elle est partie. Ce n'est qu'une empreinte de ses souvenirs latents, inactifs, inertes, qui ne peuvent plus évoluer, qui sont figés dans un passé. Donc le shoot, c'est ce qu'on pourrait vulgairement associer au fantasma des Romains ou aux fantômes de notre culture moderne. Ensuite vient le hati et ou le ib. Alors le ib, c'est le cœur ou le siège de la personnalité, de la mémoire, de la conscience. C'est lui qui est posé lors du jugement des âmes, il est lié à la loi de Maat. Alors le hib, c'est le cœur, mais comprenez pas forcément le cœur au sens physique, bien que le cœur était séparé du corps pour être mis dans un vase canope, c'est le cœur au sens, encore une fois, le siège de la personnalité, de la mémoire et de la conscience. Mais ne pas confondre le hib avec le ba. Le ba, c'est la personnification active de l'individu, alors que le hib serait plutôt sa personnification passive, sa collecte d'éléments, sa conscience. Si on faisait une petite caricature avec les pensées freudiennes, on pourrait dire que le ba, c'est le soi, et que le ib, c'est le moi. Et encore une fois, c'est très caricatural. Donc le ib sera pesé lors du jugement des âmes. Alors, d'où il est important de considérer que le ib va voyager en même temps que le ka, pour son voyage des morts. Enfin, le voyage dans l'autre monde. Ensuite vient le ren. Alors le ren, c'est le nom, une partie primordiale de l'être qui permet de continuer à exister ou à maintenir le lien avec la matière. Alors, je prends un exemple. Le pharaon Akhenaton, Amenophis IV. Le pharaon Akhenaton a fait une réforme religieuse, etc. Et quand il est mort, son nom a été mis en déchéance. On a martelé les stèles, on a effacé son nom. Le but était de le faire disparaître de la mémoire égyptienne et de le faire disparaître tout court, concrètement. Alors, le Ren, c'est le nom. C'est un pont entre le corps spirituel, le Ka, et le ba, et le hib, et le tout ce que vous voulez, et le corps matériel. Le ren, c'est ce qui fait que l'individu c'est un lien qui relie l'individu spirituel à l'individu matériel. Donc fatalement, si le nom du défunt est détruit, ou est martelé, on l'efface, eh bien c'est comme si on cassait ce lien entre le corps spirituel, ou l'entièreté du corps spirituel, et la matière. Dans l'absolu, le ren est très important chez l'Égyptien. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, une fois après tout qu'on est mort, qu'est-ce que ça peut nous faire de plus avoir de lien avec la matière? Eh bien, c'est très important. Parce que lorsqu'un défunt, un ancien pharaon est mort, on considère que via son règne, via sa présence dans la matière avec son nom inscrit, il peut encore agir sur la matière. Il peut venir conseiller son successeur, il peut venir apparaître spirituellement hein, aux autres personnes. Si son règne est détruit, il n'a plus prise dans la matière, il est coupé du monde matériel définitivement. Donc, le REN est extrêmement important. Ensuite, il y a le CAT. Alors, le CAT, c'est le corps mort, c'est la dépouille. Il a été désigné comme le corps physique qui, lorsqu'il était décédé, a fourni le lien entre l'âme et la vie terrestre. Alors, le CAT, c'est la dépouille terminée. C'est-à-dire que le jet, c'est le corps, l'image. Comprenez, le jet, c'est pas seulement le corps de la personne, c'est son image. Alors que le CAT, c'est la dépouille qui est dépouillée de toutes ses parties spirituelles. Une fois que le CAT a commencé son voyage, que le BA est parti et que le IB a accompagné le CAT, eh bien, le CAT, c'est le vestige du corps, celui qui peut être animé par l'ombre, le shoot. Voilà. Le déjet, c'est seulement l'image. Le CAT, c'est la dépouille. Alors, tous ces concepts sont assez complexes et on va tenter d'en rajouter trois autres qui sont éminemment complexes. Alors tout d'abord, nous avons l'âk, qui est un état d'être, le soi immortel, qui fait la connexion entre les différentes composantes. Donc l'âk, concrètement, c'est ce qui va connecter tous les différents morceaux de l'être entre eux. Il est l'entièreté de l'individu, d'une certaine façon. Ensuite, nous avons l'ank, ou le souffle de vie, le verbe ou le logos. D'où l'importance de ne pas confondre immédiatement le ba avec l'esprit. Même si le ba, et c'est ce qui ressemble le plus à l'esprit, pour réellement pouvoir employer le mot d'esprit sur le bas, il faudrait y ajouter l'ank. L'ank, c'est l'équivalent, encore une fois, du logos dans le christianisme. C'est le moment où l'esprit s'incarne, où il devient chair. C'est le moment créateur. Au moment, je vous rappelle, dans les cosmogonies, nous avons étudié le Ptah à Memphis, ou encore Ra dans la cosmogonie d'Héliopolis, ou etc., etc. C'est avec leur souffle, avec l'ank, qu'ils vont pouvoir donner l'existence aux choses. Donc l'ank, c'est le commencement de toute chose, c'est le principe émanateur par essence. Donc je pense que si on associe ank avec le ba, on obtient l'esprit dans sa forme grecque. Alors l'ank vous fera forcément penser à la fameuse clé d'ank, la fameuse croix égyptienne. Vous remarquerez toujours que cette clé d'ank est parfois dans certaines représentations donnée comme si une divinité le donnait par la bouche à un mortel. Eh bien, symboliquement, à ce moment-là, c'est comme s'il lui transmettait le verbe créateur, si l'on peut dire. Et là, ça lui donne sa connotation divine. L'homme, au moment où il reçoit l'ank, il n'est plus un homme, il est un dieu. D'où il n'y a que les personnages divins qui peuvent porter sur eux, à la main par exemple, une clé d'ank. Les pharaons ne portent pas la clé d'ank, sauf à partir du moment où ils sont morts. Donc, ils ont accompli leur voyage divin et donc sont divinisés au sens pur du terme, et donc peuvent porter la clé d'ank, puisqu'ils sont devenus des êtres divins. Et ensuite, pour finir, nous avons le Eka, ou le pouvoir magique, le fluide, ou les forces mises en mouvement. Alors, le Eka, on pourrait dire qu'il n'est pas propre à l'individu, mais il est partout. Et donc, vu qu'il est partout, il est dans l'individu, mais il connecte l'individu avec l'entièreté des autres choses. Ce qui va définir la magie chez les anciens égyptiens, c'est le contrôle du Eka. Le Eka, c'est ce qui permet, encore une fois, de manipuler les forces, de faire des prières, d'accomplir des actions magiques, religieuses ou tout ce que vous voulez. Et d'où cela nous fait revenir à une notion précédente. Le but de la vie terrestre est de respecter la loi de Maat, c'est-à-dire la loi de la vérité-justice, mais également d'avoir une maîtrise efficace du Eka, donc du fluide qui environne les êtres. Donc c'est fondamental. En gros, pour s'en sortir dans la vision égyptienne, il faut respecter le code de Maat et maîtriser la magie, si l'on peut dire, au sens magico-religieuse, hein, pas au sens magie tel qu'on l'entend dans nos sociétés modernes. Comprenez bien la nuance. Alors, voici grosso modo pour faire le bilan, l'état des composantes de l'être. Donc, vous voyez, c'est relativement complexe et on ne peut pas simplement limiter à âme, corps, esprit, comme dans certaines visions. Même si, encore une fois, prudence, les Égyptiens nous ont donné tout un tas de termes, mais parfois ils peuvent désigner plus ou moins la même chose. Le ba et le hak ou le hank peuvent parfois être associés. Cela dépend encore une fois comment on interprète. Toujours quelques mots assez rapides sur le clergé égyptien avant d'aborder la question du voyage des morts. Alors oui, j'avais prévu de parler dans l'autre sens, mais c'est pas grave, on va faire dans ce sens-là. Alors le clergé égyptien, tout d'abord, tout en haut de la pyramide, si l'on peut dire, il y a Pharaon. Pourquoi ? Eh bien, Pharaon est le représentant des dieux sur Terre. Donc, il est le pont qui relie le monde des hommes au monde des dieux. Il est le seul intermédiaire direct entre les dieux et les hommes. Mais fatalement, le pharaon ne peut pas s'occuper de tout. C'est ainsi qu'il va déléguer des tâches, il va, transmettre son pouvoir à des autorités, qu'on va appeler les prêtres ou les hiérophantes. Alors, rappelons-nous dans la mythologie et dans les récits divins, qu'à un moment, c'est Geb qui va justement créer l'ordre des prêtres. Eh bien, on retrouve toujours tout à fait cette symbolique, pharaon distribue le pouvoir aux prêtres, comme Geb l'avait fait à une époque. Pharaon est donc le digne successeur, encore une fois, des dieux régnants d'autrefois. Alors, on va retrouver des prêtres principaux dans les différents sanctuaires, en fait, avec le pontife d'Héliopolis, qui est qualifié de plus grand des voyants de Ré. Ensuite, celui de Memphis, le chef des artisans. Pourquoi de chef des artisans? Eh bien, tout simplement parce que le dieu principal de Memphis est Ptah, et Ptah est le dieu des artisans. Artisan au sens artiste, précisons-le. Ensuite, celui de Hermopolis, Parva, qui prend le titre de grand des cinq de la maison de Thoth. Pourquoi? Parce que à Hermopolis, le dieu principal est Thoth, encore une fois. Et à Karnak, celui qui ouvre les deux portes du ciel, référence à Amon-Ra, du grand temple de Karnak, bien sûr. Alors, il y a ensuite tout un tas de prêtres dans la culture égyptienne, des prêtres astrologues, c'est-à-dire qui ont pour but de calculer, de faire des prédictions sur les événements à venir. Ensuite, on va trouver des prêtres ritualiques, ceux qui se lèvent le matin pour accomplir les sanctuaires de réveil de Képri, le soleil du matin. On va trouver des prêtres qui ritualisent le soleil de Ra du midi, puis des prêtres du coucher du soleil, donc d'Atum du soir. Les cérémonies religieuses en Égypte se font de façon journalière. Il y a des rituels le matin, le midi et le soir. Ensuite, il y a des cérémonies particulières à certaines dates de l'année, de grandes processions pour la célébration d'Amon-Ra ou encore de la naissance d'Osiris ou d'autres choses. On va trouver des rituels, bien sûr, dans le cadre des rites funéraires pour l'ascension du pharaon ou d'autres personnages importants, etc. Tout ça, il y a une vie religieuse permanente. On trouve également en Égypte une sorte de clergé régulier, c'est-à-dire que des personnes qui ont une vie monacale permanente et donc qui vivent dans les sanctuaires dans le but de l'entretenir, d'accomplir les offrandes, les libations et autres. Donc en Égypte, il y a un clergé extrêmement organisé et surtout extrêmement puissant. Il n'y a aucun pouvoir plus puissant en Égypte que le clergé. Le grand prêtre d'Amon à Thèbes était suffisamment important pour pouvoir contredire Pharaon pendant le Nouvel Empire égyptien, ou du moins pendant certaines périodes. Les prêtres avaient un pouvoir qui pouvait décider réellement de la politique globale de l'Égypte. Alors, maintenant passons le voyage vers l'au-delà et le jugement des âmes. Alors, on se sert principalement donc du livre des morts égyptiens et des quelques autres livres des sarcophages, enfin les autres livres plus récents. Donc comment commence un petit peu ce voyage? Alors là, vous avez un exemplaire d'un papyrus du Livre des Morts où on voit le tribunal d'Osiris, donc avec Osiris et ses deux sœurs Isis et Nephthys qui président au jugement de l'âme. Le double spirituel du défunt accompagné par Anubis qui lui tient une clé d'encre. Le défunt n'en porte pas encore, il n'est pas encore divinisé, bien sûr, à ce stade. Puis on voit ensuite la balance, avec Amunet, la dévoreuse, la balance qui représente la justice de Maat, avec le cœur, le Hib, qui est posé sur un côté de la balance, et de l'autre côté, la plume de Maat pour le jugement. Alors, les étapes de ce voyage, c'est simple. Tout d'abord, il y a le rituel d'embaumement du Déjet, le corps, qui devient donc un Kat, une dépouille vide, et le Ka va, dans une des parties, entreprendre son voyage. Le corps devient une enveloppe vide, le 4. Voilà ce que je disais. Précisons que le bas, lui, l'esprit, si on peut dire, a été déjà préalablement libéré. Mais le bas n'accomplit pas un voyage. Le bas, lui, il est déjà monté dans les sphères célestes. Il surveille d'en haut, si l'on peut dire. Alors que le cas, lui, il accomplit un voyage tonien dans le monde souterrain. Ensuite, il y a les épreuves dans le monde des morts, d'où l'intérêt du Livre des Morts. Le Ka va devoir affronter des démons, des entités démoniaques, il va devoir franchir des épreuves, répondre à des énigmes. C'est tout un voyage un petit peu à l'image du voyage de Thésée aux Enfers, ou du voyage d'Orphée, d'Héraclès, etc. Il y a des épreuves. Ce n'est pas un voyage paisible, c'est vraiment des épreuves. Et il y a des milliers de façons de mourir, de disparaître définitivement, que le Ka soit détruit lors de ce périple. D'où le Livre des Morts livre des formules magiques, des incantations, des prières qui vont permettre au Ka d'avoir des éléments magiques, rituels, pour pouvoir échapper au piège du monde du dessous, du monde souterrain. S'il accomplit toutes ses épreuves, il va arriver au tribunal d'Osiris avec la pesée du cœur. Donc le Ib qui se trouve qui accompagne le Ka, bien sûr, et il est posé sur la balance de Ma'at. Et en face, on pose une plume de Ma'at, bien sûr, pour juger l'individu. Alors, il y a deux options, même si en théorie, il y en aurait trois, mais il n'y en a que deux qui peuvent arriver. Première option qui n'arrive jamais, le cœur, le hib, est plus léger que la plume. Ça, c'est impossible, parce que ça suggérerait une perfection au-delà de la loi de Ma'at, ce qui est impossible. Soit le cœur, le hib, est en poids égal avec la plume de Ma'at, et dans ce cas, l'individu pourra accéder au champ d'Igalou, c'est-à-dire le paradis d'éternité, ou inversement, le hib est plus lourd que la plume, et dans ce cas-là, le cas sera dévoré par Amunet, la dévoreuse, et donc ça sera la disparition définitive du cas. Mais pas du bas, comprenez, le bas, lui, il n'est pas là, il est parti. Mais le cas, lui, sera détruit, le double spirituel n'existe plus. Et il va dévorer de ce fait aussi tout le reste, hein. Il dévore le cœur, le renne, tout ce qui va bien. Ensuite, enfin, le renne n'est pas détruit, mais vu que le pont entre le matériel et le spirituel ne peut plus exister, puisque le spirituel est mort. Alors ensuite, une fois qu'il y a eu le jugement de Ma'at, pendant du moins, il faut faire une confession négative devant le tribunal d'Osiris. Alors comment ça se passe? La loi de Ma'at, c'est quoi? Eh bien c'est tout un tas de préceptes moraux qui doivent être suivis scrupuleusement dans le monde, dans le monde des vivants, et qui seront jugés dans le monde souterrain. Alors, la confession négative, c'est des affirmations, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'individu de dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça », on leur demande de dire « je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça ». Exemple, on leur demande de dire « je n'ai pas porté atteinte à mon prochain, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas convoité la femme de mon prochain », etc. Tout un tas de choses pour dire « je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça ». Une fois la pesée du cœur et la confession négative accomplie, si le résultat est positif, le tribunal d'Osiris, donc Osiris, rend son jugement et s'ouvre les portes des champs d'Igalou. Le Kat, le double spirituel, peut entrer dans ce paradis d'éternité où il aura une nouvelle vie, enfin une existence éternelle, mais qui sera conforme à sa vie terrestre. Si une personne était un monarque dans sa vie terrestre, il sera également un monarque dans sa vie d'après. Si la personne était un ouvrier, un agriculteur dans sa vie terrestre, il sera probablement encore un agriculteur ou un ouvrier dans sa vie d'après. Il n'y a pas l'idée d'un paradis de béatitude, c'est une vie éternelle, mais dans des conditions de mérite. De mérite aux yeux de la société égyptienne, hein, comprenez-le encore une fois. Et puis si, encore une fois, le jugement est négatif ou que la personne a menti pendant sa confession négative, eh bien il sera dévoré et disparaîtra définitivement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le livre des morts offre également des rituels magiques pour duper les divinités. Et ça, c'est fondamental. Donc là, on est vraiment dans la pratique magique. Puisqu'il existe des formules magiques qui permettent de mentir à la loi de Ma'at et de briser le cycle, encore une fois, du jugement divin. Qui permettent donc de faire une confession négative en mentant afin de pouvoir s'assurer l'éternité positive malgré des actions mauvaises dans la vie terrestre. D'où l'importance de posséder un livre des morts, parce que sans ce livre des morts, il sera impossible de duper la loi de Ma'at, bien entendu. Alors vous voyez que les gens avaient quand même bien conscience que ils n'avaient pas des vies parfaites et que il faudrait se confronter au tribunal d'Osiris, alors autant trouver des formules magiques qui permettent de le contrecarrer. Alors, pour les sources de tous ces documents, donc on a cité bien sûr le livre des morts, mais qui nous renseigne sur la mystique égyptienne, nous avons, comme exemplaire, le livre d'Amdouat, donc 18e dynastie, livre des portes, 18e dynastie, livre de lavage, 18e dynastie, livre des cavernes, 19e dynastie, livre de la terre, 19e dynastie, livre du ciel, 19e dynastie encore, et le livre de Nout, encore une fois, à la 19e dynastie. Alors, il est important que tous ces livres sont appelés par coutumance « livres du monde souterrain », parce qu'ils traitent tous du voyage de l'âme ou du monde octonien du dessous. Il présente un petit peu les récits divins, mais la finalité étant toujours dans la pensée égyptienne, l'idée du monde des morts et de s'assurer la vie d'après. Les récits des dieux, c'est bien sympa, mais le but étant quand même de servir de modèle, donner des archétypes mythologiques pour expliquer ou du moins donner les clés pour accéder à la contemplation de la vie d'après. Nous en avons presque terminé avec notre voyage dans les mythes et croyances égyptiennes. Mais touchons quelques mots quand même sur l'égyptomanie et sur les traditions mystériques dans l'Égypte antique. Les traditions fantasmées et les traditions réelles, si l'on peut dire. Tout d'abord, l'égyptomanie, encore une fois, a pour tendance de nos jours à attribuer une sorte de tradition mystique à l'Égypte remontant à la nuit des temps et que l'Égypte aurait donné tous les secrets mystico-ésotériques de l'humanité. Ceci tout d'abord est complètement faux. En réalité, énormément de concepts à tendance ésotérique, magique ou autre viennent également de Mésopotamie. Certains viennent d'Égypte et d'autres de Mésopotamie. Ce n'est pas une source unique que l'Égypte. Les savants grecs, ceux qui nous ont offert notre modèle civilisationnel actuel, si l'on peut dire, sont eux-mêmes des compilateurs. Et les savants grecs se sont rendus dans des villes comme Memphis ou comme Thèbes en Égypte afin de s'initier aux sciences secrètes égyptiennes. Mais ils sont également rendus à Babylone, dans l'antique Chaldée, pour acquérir également les secrets, par exemple, de l'astrologie qui a précédé en Mésopotamie. C'est-à-dire que la science astrologique mésopotamienne est plus ancienne que la science égyptienne. Et les sciences magiques de Mésopotamie sont également plus anciennes que les sources égyptiennes au vu des éléments que nous possédons de datation. Mais néanmoins, il y a énormément de choses qui viennent d'Égypte, comme le principe du mythe eschatologique de la fin des temps qui n'appartient pas à la mystique mésopotamienne et qui appartient bien à l'égyptienne cette fois-ci. Alors, l'égyptomanie a sévi, et aujourd'hui, encore une fois, on voit sur Arte, vous avez 40 documentaires par an sur l'Égypte et quasiment aucun sur la plupart des autres civilisations à travers le monde. Il y a une certaine fascination pour l'Égypte qui a commencé au XVIIe-XVIIIe siècle et qui ne s'est pas tarie. Le problème étant qu'énormément de visions fantasmées de l'Égypte sont nées au cours du XIXe siècle, le siècle des occultistes, à une époque où soit le hiéroglyphique n'était pas traduit, ou que les personnes qui l'ont interprété n'avaient pas accès aux traductions des textes égyptiens, ce qui a engendré énormément de fantasmes. Certains auteurs de l'occultisme, comme par exemple René Guénon, ou encore Eliphas Lévy, ou même Elena Blavatsky, ont interprété une mystique égyptienne sans avoir aucune connaissance factuelle de la religion égyptienne. Ils connaissaient le nom des dieux dans la langue grecque, mais ils ne connaissaient pas l'origine et la datation de certains mythes. Exemple, le fait qu'il y ait plusieurs cosmogonies en Égypte et pas une seule, le fait qu'aucune ne soit d'accord entre elles, et le fait que certains dieux n'apparaissent pas forcément dans les premiers temps de la société égyptienne, mais apparaissent à différentes époques, n'ont pas tout à fait les mêmes concepts, qu'il y ait une absorption de certaines divinités par d'autres, des fusions, des syncrétismes et tout un tas de choses. En réalité, la mythologie et la croyance égyptienne est hautement complexe et ne doit pas se résumer à la vision simpliste, et je ne passe pas mes mots, qu'en ont fait les occultistes du 19e et du début du 20e siècle. Alors qu'en est-il réellement de la tradition mystérique en Égypte? Le fait qu'il y ait une connotation magique, une sorte d'enseignement au secret, est hautement probable. Certains, c'est très difficile à dire. Les Grecs nous ont dit qu'il y avait des initiations secrètes en Égypte. L'on peut supposer qu'il y a une part de vérité, et que, en effet, l'accès au véritable secret de la religion égyptienne, je ne parle pas de la religion publique, ce qu'on racontait en partie ce soir, mais l'accès à certains secrets à caractère ésotérique est existé dans la tradition égyptienne, dans les temples, et soit détenu par les seuls prêtres, ceux qui avaient accès aux secrets ésotériques de la religion égyptienne. Et il est probable, en effet, que certains Grecs, peut-être Solon, peut-être d'autres, aient eu accès, Pythagore par exemple, aient eu accès à ces temples et aient pu être initiés aux traditions mystiques égyptiennes. Donc cela a nourri la pensée grecque. Ils ont fait la même chose en Mésopotamie, avec des oracles chaldéens, avec la science des mages de Mésopotamie, etc. Tout ça, c'est la même chose. Mais venons-en, touchons le mot, par exemple, des cultes à mystère, et notamment du culte à mystère d'Isis. Alors, le culte à mystère d'Isis, vous savez, c'est quelque chose de bien connu aujourd'hui, enfin bien connu, non, très mal connu aujourd'hui en réalité. C'est un culte mystérique qui met Isis dans une position fondamentale avec le mythe osirien, du mythe de mort et résurrection, de voyage symbolique aux enfers et de culte chtonien encore qui a pour but donc d'accomplir ce voyage dans le monde souterrain pour acquérir une connaissance et d'en ressortir avec cette connaissance pour atteindre une sorte d'autre état d'existence. Le principe base d'un culte à mystère que l'on va retrouver à Eleusis en Grèce, à Samothrace également en Grèce, dans les mystères de Dionysos, etc. ou de Cybèle. Et les mystères d'Isis nous fait forcément penser à l'Égypte. Le problème étant que les mystères d'Isis n'existent pas dans un temps ancien de la société égyptienne. Les mystères d'Isis ont existé à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ et sont une copie des mystères d'Eleusis, mais en Égypte. Je m'explique. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs d'Alexandre le Grand vont conquérir l'Égypte, la mettre sous vassalité, peut-on dire. Et quand Alexandre le Grand meurt, ses généraux se partagent son empire. C'est Ptolémée, l'un de ses généraux, qui prend contrôle de l'Égypte, se fait proclamer pharaon, dans la directe lignée des pharaons précédents et d'Alexandre le Grand, et impose une dynastie grecque sur l'Égypte. ce qui crée un mixage culturel, une hellénisation de l'Égypte. Préalablement, l'Égypte avait lourdement influencé la Grèce. Mais à ce stade-là, c'est la Grèce qui influence l'Égypte. Je ne dis pas que l'Égypte n'influence pas les Grecs locaux, mais néanmoins, il y a une influence mutuelle. Or, à ce stade-là, il y avait déjà, sur le territoire de la Grèce continentale, des mystères, un culte mystérique qu'on appelle le culte à mystère d'Éleusis, qui reprend ce principe, voyage chthonien aux enfers, initiation, résurrection symbolique et acquisition d'un autre état d'existence. Le problème, c'est que les mystères d'Éleusis, qui avaient un immense succès dans la société grecque, ne pouvaient être accomplis, enfin les initiations, ne pouvaient être accomplies que dans les télestérions à Éleusis, à proximité d'Athènes. Or, il se trouve que les mystères d'Éleusis avaient tellement de succès que cela a provoqué des petits courants dissidents qui ont tenté d'établir des sanctuaires locaux là où ils étaient établis, mais en reprenant le même schéma que les mystères d'Éleusis. C'est ainsi que des Grecs vont naturellement développer le culte à mystère d'Éleusis sur le territoire égyptien. Et fatalement, ils vont l'adapter aux noms locaux, ce qui va donner les mystères d'Isis, où Déméter se trouve remplacé par Isis, et où Dionysos se retrouve remplacé par Sérapis, ou Osiris Sérapis, si vous préférez. Tout simplement, mais nous sommes exactement sur le même schéma initiatique que les mystères d'Éleusis, qui existent depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, attestés, alors que les mystères d'Isis n'existent que depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, du moins attesté dans la littérature. Et l'on voit d'ailleurs dans les représentations de la figure d'Isis que ce n'est pas du tout la même chose entre les périodes, par exemple, du Nouvel Empire et la période de la domination grecque. Par exemple, Isis porte régulièrement un serpent dans le cadre du culte à mystère d'Isis, mais une chose qui n'a jamais existé dans la vision classique de la déesse Isis, dans les temps classique de la société égyptienne, Nouvel Empire, Moyen Empire, etc. Tout ça. Donc on voit que le personnage d'Isis se retrouve par jeu des syncrétismes, utilisé comme figure modèle pour dupliquer les mystères de l'Isis en Égypte.
Nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Comme vous l'avez vu, l'Égypte conserve une bonne part de ses mystères, néanmoins, tout ne vient pas d'Égypte. En réalité, c'est un jeu d'influence perpétuelle entre les différentes civilisations. Oui, l'Égypte a influencé le Proche-Orient et la Grèce. Mais c'est également vrai en sens inverse. L'Égypte n'est pas une civilisation figée sans évolution, bien au contraire. Elle s'est enrichie perpétuellement, a développé de nouveaux concepts, faisant du syncrétisme religieux en adoptant des dieux étrangers au gré de ses conquêtes. L'Égypte n'en reste pas moins l'un des principaux berceaux de l'histoire de l'humanité. Et nombre de ses concepts divins, de ses réflexions métaphysiques et de ses schémas rituels sont nés sur la terre des pharaons et ont ensemencé le monde. Alors, si vous avez apprécié cette émission et mon travail, eh bien je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant mécène sur Tipeee ou souscripteur sur YouTube, ce qui vous donne accès aux vidéos privées de l'Académia. Car c'est grâce à vous et à votre soutien que la chaîne existe et que je peux continuer à vous proposer des émissions sur YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. À très bientôt.